parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Il est 22h, c'est l'heure de Confidence. Donc c'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission, bien sûr, et les thèmes aussi, c'est vous qui les choisissez. Malgré que moi je vous en propose, hein, moi je vais vous proposer un thème ce soir qui touche une grande partie de nos concitoyens, voilà, qui en souffrent, surtout pour beaucoup. Nous allons aborder ce thème ensemble, et puis j'attends surtout beaucoup de témoignages de votre part, des avis, peut-être quelques solutions qui seraient proposées. Au 01 53 48 3000, mais avant, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement à la Jibulkoum, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Alors ce soir, écoutez, pas de Samir. Nous sommes jeudi, oui, je sais bien, mais pas de Samir. Samir est un petit peu souffrant. Il a la voix complètement prise, complètement rouée. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. 01 53 48 3000, la solitude. Nous allons parler de la solitude. Ça peut être vraiment très pesant, hein, la solitude. C'est l'isolement, c'est tout ce que vous voulez. Pour beaucoup, eh bien, ceux qui la subissent, parce qu'elle n'est pas choisie, il y en a qui choisissent pendant un temps, on va dire. Mais d'autres, malheureusement, nombreuses et nombreux, la subissent. Et parfois, eh bien, cet isolement devient pesant et devient. Et puis, souvent, provoque même des maladies. Eh oui. Donc, des maladies mentales, hein, psychologiques ou autres. Donc, nous allons parler de ce thème qui est, je trouve, à mon goût, pas suffisamment abordé dans les médias. On ne parle pas de solitude. On voit souvent des émissions à la télévision, sur le net ou ailleurs, où les gens sont entre amis, font la fête, etc. Vous voyez, hein. Donc, rarement, ce sujet est abordé. Et je trouve que il mériterait justement qu'on s'y penche. C'est un sujet qui reste, ma foi, un peu tabou, hein, parce qu'on regarde un peu les gens seuls comme si c'était des ermites, des êtres à part, des extraterrestres. Non, ils sont nombreux, ils font partie de notre société, de notre quotidien, parfois ils font partie de nos familles. La solitude est le sentiment d'être seul, il ne dépend pas nécessairement du nombre de personnes présentes, parfois. On peut être très bien se sentir seul au milieu d'une foule. Un isolement social est lié à un manque d'interaction et de relation avec les autres. Si certains la choisissent, d'autres la fuient. La solitude est une souffrance lorsqu'elle devient permanente. Dans certains cas, la solitude augmente la dépression, les troubles du comportement alimentaire ou le trouble anxieux. La solitude reste encore tabou dans notre société. Les trois quarts de ceux les personnes qu'elle touche disent avoir du mal à en parler. Voilà. Donc la solitude, eh bien, beaucoup, comme je viens de le dire, la subissent sans oser en parler. Eh bien, ce soir, j'ai décidé que nous allons justement en parler tous ensemble. Voilà, pour savoir un petit peu comment faire pour en sortir. D'accord. Et tout de suite, alors un petit son, hein, pour. Pour aborder ce sujet juste après, j'attends vos appels au 01 53 48 3000, à tout de suite.
Avec ma solitude,
la solitude, alors c'était, oh, j'ai oublié son nom, tu peux me le rappeler, Moustaki je crois, c'est Georges Moustaki.
Georges Moustaki.
C'est ça, Georges Moustaki en plus, c'est un chanteur que j'aime beaucoup et je pense que vous êtes nombreux aussi à l'aimer, c'est un chanteur à texte et cette chanson elle est magnifique, elle est bien chantée en tout cas avec le ton, tout est mis. 01 53 48 3000, la solitude. Et oui, à une époque, hein, où nous sommes de plus en plus connectés, hein, réseaux sociaux qui chaque jour, bien, il y en a de plus en plus qui arrivent. Eh bien, virtuellement, on est connectés, c'est vrai. Pourtant, la solitude s'impose aujourd'hui comme un véritable fléau. Alors, nombreuses justement les personnes qui se sentent désespérément isolées et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le phénomène ne fait pas de distinction d'âge, eh oui, ou de milieu social. Alors, travail épuisant, absence de famille, d'amis, de liens sociaux complexes ou blessures du passé, les raisons varient d'un individu à l'autre. Alors, comment faire pour aider une personne à sortir de la solitude ? Voilà le sujet de ce soir. Alors, nous avons 01 53 48 3000. Jamel qui nous appelle du 77. Bonsoir Jamel.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Jamel. Bienvenue à toi.
Merci. Ça va bien ?
Ça va et toi ? Tu vas bien ?
Oui, très très bien.
Merci, très bien alors. Alors.
Ben, je veux réagir au sujet sur la solitude puisque moi j'avais appelé il y a quelques temps et tu te souviens, j'avais évoqué le fait que je vivais seule, que j'étais très très bien et que que je voulais pas me mettre en couple.
Oui.
Et que la solitude, pour moi, en fait, je la vis pas négativement, je la vis vraiment plutôt positivement. Alors c'est sûr que j'ai vraiment une grande pensée pour les personnes âgées qui sont seules et qui passent vraiment des moments très difficiles, surtout en ce moment, pendant les périodes de Covid. Mais il y a des personnes, je pense, qui le vivent bien, surtout des personnes qui ont vécu des relations difficiles et qui, à la suite de ça, en ont tiré des mauvaises expériences et qui, aujourd'hui, se retrouvent seules, mais qui préfèrent être comme ça. Mais moi, qui n'a pas eu une relation... dans la durée, j'ai 34 ans et aujourd'hui, et j'avais même échangé avec Hakim, je pense, à ce sujet-là. J'aime vraiment la solitude parce que je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai personne en fait qui me dicte ce que je dois faire.
Oui.
En fait, au bout d'un certain moment, les différentes barrières qu'on nous met quand on est jeune, au bout d'un moment, on les supporte pas quand on est jeune. Voilà, fais pas ci, fais pas ça. Aujourd'hui, je me sens libre, je me sens un peu tranquille et je trouve que pour certaines personnes, évidemment c'est une minorité, c'est pas une majorité, je pense qu'il y a quand même des personnes comme moi qui aiment être seules.
Oui. Oui, effectivement, bien sûr que c'est choisi chez toi, tu fais partie de la catégorie de personnes qui choisissent d'être seules pour leur indépendance, leur liberté, comme tu viens de le décrire. Qui fait partie justement de ta force, hein, c'est ce qui te donne cette force. Et donc, est-ce que tu as déjà vécu en couple ?
Oui, enfin, j'ai jamais été mariée.
Oui, en couple.
Mais c'était des relations, on va dire.
D'accord.
Des relations très, quand on est jeune, on découvre la vie et puis c'est des relations de ce type-là.
Oui.
Mais j'ai jamais franchi l'étape de la concrétisation du mariage et tout ce qui s'ensuit.
D'accord. Est-ce que tu penses que cette solitude dans le temps va durer vraiment ?
Je pense pas.
Voilà.
Parce que, comme je te l'ai dit, Vanessa, quand on est jeune, en fait, on a des envies qui sont pas les mêmes que quand on a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. On est beaucoup plus mature quand on a 30 ans, c'est-à-dire que on fait plus attention à certaines choses. Mais à 20 ans, c'est pas la même chose. À 20 ans, on veut vivre les choses. Et en fait, quand on est adolescent, quand on devient adulte, on franchit des caps et même on franchit parfois des interdits. Aujourd'hui, à 34 ans, moi, je sais ce que c'est que le bien, le mal. Tu parles des réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, jamais je rencontrerai quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que, moi, je vois des proches, je vois même dans des émissions, je vois même, des personnes qui ont fait des rencontres sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ça devient des relations très difficiles. Et moi, je veux pas, on va dire, faire partie des personnes qui sont dans cette situation. Je veux faire très attention. Et même si je me mets en couple, Vanessa, la confiance en 2022, c'est très très difficile à avoir. C'est pas pareil qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, les personnes qui se marient très très vite, la plupart, évidemment, je dis bien la plupart, c'est des personnes en fait qui ont fait le mauvais choix. Et ça, généralement, nos parents, en fait, ils veulent, quand on trouve quelqu'un, nous marier immédiatement parce qu'ils veulent nous voir heureux. Mais le problème, c'est que quand tu te maries et que tu découvres le vrai visage de certaines personnes après le mariage, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de se séparer parce que d'une part, t'as la famille qui te met la pression, tu sais plus quoi faire. Et c'est ce que tu disais, tu le disais même très très bien dans une autre émission, de se séparer ou de divorcer de quelqu'un. C'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est positif, c'est bénéfique si jamais on veut se sortir d'une relation extrêmement difficile.
Bien sûr, je suis complètement d'accord là-dessus. Alors, pour tout, alors ce que j'entends, c'est qu'il y a la peur en même temps, hein, dans ton discours. Hein. Il y a la peur de faire le ou les mauvais choix. Le couple, pour toi, c'est pas forcément synonyme de bonheur.
Ouais.
Donc, il y a des expériences vécues ou à travers d'autres, peut-être aussi également, eh bien, qui font qu'aujourd'hui tu tiennes ce discours et que tu sois dans cette peur de te lancer, hein, de vraiment te jeter dans la vie de couple. Et j'espère que ça viendra, que cette peur disparaîtra. Mais on sent encore qu'elle est pesante. Donc il y a aussi le poids de la famille. J'entends ça aussi, puisque quand tu disais, quand on est jeune, on a la famille, donc on peut pas faire ce qu'on veut. On nous dit ce qu'on doit faire et on se sent quelque part un petit peu, un petit peu emprisonné, quoi, hein, des décisions de notre entourage, des parents, la famille, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tu es dans la trentaine, c'est-à-dire que tu t'es libéré de ce joug familial, contraignant parfois, avec ses règles, ses lois pesantes. Et aujourd'hui, tu as envie de jouir de cette liberté qui t'a manqué dans ta jeunesse. Tu es jeune, hein, 30 ans, mais dans ta petite jeunesse, on va dire. Et aujourd'hui, tu as peur justement de te lancer dans la vie de couple, de crainte de revivre d'autres contraintes et d'être moins libre, puisque tu le dis si bien, tu as commencé par dire « je n'ai de compte à rendre à personne ».
C'est ça.
Ah, c'est ça. Je reviens vers toi juste après. On a une petite pause. Hein. Ne pars pas, Jamel. Allez.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit. Confidence avec Vanessa.
Confidence ce soir. Et ce soir, sur Beurre FM, nous parlons de solitude. Voilà. Alors, donc, parfois, c'est un choix de vie, hein, comme vous l'entendez avec notre ami Jamel. Hein. Donc, elle n'est pas subie, hein, de ce côté-là. Donc, elle est plutôt choisie et bien vécue. Jamel, qui est toujours là, bien sûr. Oui, Jamel, je te laisse continuer. Donc, je t'ai dit un petit peu ce que je pensais de ton choix, de ton intervention. Et voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses, hein, à dire, hein, beaucoup, beaucoup.
Oui, bien sûr. Après, je ne pourrais pas vraiment aller sur de la peur parce que si aujourd'hui, on me dit « tu dois te mettre en couple, tu n'as pas d'autre choix », je le ferai.
Ouh. Mais d'autres choix. Regarde comment tu parles. Oui. Tu n'as pas d'autres choix. Dire que tu fais pas attention à ce que tu dis parce que c'est spontané, c'est subliminal. Tu te rends pas compte, mais tu dis beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses qui disent tout et leur contraire en même temps.
Non. Ce que je veux dire, c'est que si on me met dans une situation où c'est je dois me mettre en couple ou on me coupe la gorge, bon, évidemment.
Oh là là.
Mais je serais pas dans la peur puisque tu parles de peur. Moi, je dirais plus, enfin, de la méfiance. Je me marierai pas tout de suite. Je prendrai mon temps pour faire connaissance. Je me précipiterai pas. Je prendrai mon temps.
Alors, moi, ce que j'entends encore une fois, je suis en train de te faire ta psychanalyse là.
Oui. Mais alors, généralement, c'est toujours ça quand je t'appelle. Hein.
C'est vrai.
Je fais toujours ma psychanalyse. Ouais.
C'est peut-être pour ça que tu appelles, hein, psychanalyse gratuite, c'est bien.
C'est pour ça que j'aime bien écouter ton émission.
Oh, t'es un amour. Jamel, alors, ce que je sens, je sens que tu n'es pas encore tout à fait libéré, justement, des liens familiaux.
Si, parce que, franchement, si.
Tu sais ce que tu viens de dire ? Est-ce que tu t'entends ? Tu viens de dire, si on ne me donne pas le choix, encore une fois, tu vois, si je me vois obligée, parce qu'on ne me donne pas le choix, on m'oblige. En aucun moment, tu as dit, bah, si je tombais amoureux, si un jour, eh bien, l'amour me tombe dessus, et que, voilà, enfin, tu vois, dans la logique des choses, tu vois, on tombe amoureux, on se met en couple, etc. Mais toi, tu n'as pas du tout abordé ce volet de l'amour. Toi, c'est, et si on ne me donne pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a encore toujours ce poids, tu vois, c'est comme, par exemple, comment dire, tes parents ne sont pas avec toi, tu es maintenant un grand garçon, tu vis seul, etc. Mais leur ombre, elle est toujours présente, l'ombre de la famille. Chose que je comprends, hein, parce que c'est culturel, hein, parce que on a ce poids familial, tous, hein, moi compris, etc. ce poids de la famille avant d'agir, eh bien, on pense toujours que va penser ma mère, mon père, ma famille, etc. C'est comme ça. Même si on prétend vivre le contraire et être complètement à l'opposé de ça, parce que on lutte pour se débarrasser de son passé, mais le passé nous rattrape toujours. On peut pas. C'est-à-dire que quand je dis le passé nous rattrape, dans le sens où l'éducation, il y a des cultures où l'éducation est très présente. Et ça va jusqu' de la naissance jusqu'au tombeau, tu vois. C'est comme ça. Voilà, moi je t'entends, mais c'est le petit garçon que j'entends encore. Si on ne me donne pas le choix, on a décidé pour moi, tu as 34 ans, mais tu vas décider pour toi. Mais toujours en considérant le regard des autres.
Pardon? Non, mais c'est pas une pression familiale quand
c'est pas une pression, non. La pression, elle est psychologique, elle est présente parce que elle est impactée en toi.
Non, mais en fait, il faut savoir, et c'est ce que j'avais dit dans une précédente émission, c'est que mes parents, en fait, il y a quelques années de ça, et j'en avais parlé, ils avaient, vraiment, ils m'avaient incité, voilà, à ce que je me marie, ils m'avaient vraiment, tous les soirs, c'était quasiment ça dans les débats familiaux. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, maintenant, on te laisse faire ce que tu veux. Donc vraiment, maintenant, c'est pour ça, en fait, que, en termes de liberté, vraiment, je me trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux seul. Et le jour où j'aurai envie de me mettre en couple, ils seront là juste à respecter mes décisions. Que je sois en couple, seul, vraiment dans les deux cas de figure, ils respectent ma décision. Et maintenant, ils ne me font plus aucune, on va dire, ils ne me donnent plus de conseils sur le mariage. Parce qu'ils ont compris maintenant mon choix.
Oui, mais viens, tu sais, le jour où tu sauteras le pas, je vais te dire quand. Ce sera le jour où tu seras complètement affranchi, complètement libéré des liens psychologiques, je dis bien attention, hein, psychologiques de l'éducation que tu as reçue, que nous avons tous reçue. Parce que c'est culturel, encore une fois, je m'inclus dedans. On a du mal, parfois, parce qu'on a les fantômes du passé qui reviennent. Tu as des cultures qui sont comme ça, qui sont très lourdes, très pesantes, où parfois certains ne sont jamais libres. Jamais. Mais vraiment jamais. On fait le choix même de leur mariage. C'est jusqu'au bout, c'est ainsi. Et on fait même le choix de leur non-divorce, je dis bien. Parce que même si la personne est malheureuse, eh bien quand elle est malheureuse, elle essaye de balbutier hein, quelques bribes comme ça en disant à la famille qu'elle est malheureuse et la famille le voit. Et ça, parfois ça se passe très mal. Elle essaye d'avoir, si tu veux, c'est même pas un conseil. Elle essaye d'avoir, comment dire, elle demande pas l'autorisation, mais indirectement, en disant il me fait ça, je suis malheureuse, je ne suis pas bien, je suis pas épanouie, etc. En se plaignant, c'est comme si elle cherchait l'autorisation indirectement, même si c'est pas dit ouvertement. Voilà. Et ces personnes ne sont jamais libres, elles sont esclaves de l'éducation familiale, de ce qui peut peser avec toute la société, les liens qu'on ne rompt jamais avec une, parce que nous on n'a pas que des parents, on a toute une société. Quand tu regardes les auditeurs, quand on discute souvent et même les gens autour de toi, quand ils te parlent de leurs parents, etc. Mais ils parlent du village, parce que dans le village ça se passait comme ça, et les tantes et les cousins et les ceci et les cela, tu vois. Donc ils se rendent pas compte, mais dans la discussion, dans le discours, il y a toujours une multitude de personnes. Il y a toute la dachara, comme on dit chez nous, tu vois. Il y a toute l'ethnie, tout le village, tout le monde qui est présent virtuellement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'éducation. Parce que tout petit, on nous dit ne fais pas ça. C'est pas parce que c'est pas bien pour toi. Tu comprends? Parce que la morale voudrait quoi? Qu'on te dise, par exemple, ne fais pas telle chose. C'est pas bien pour toi parce que pour ton avenir, pour toi, c'est pas moral, pour la société, pour tout ce que tu veux et tout. Non, on va dire, ça se fait pas. Que vont dire les gens? Oui, chère Colonnesse, tu comprends? C'est toujours le regard des gens. C'est-à-dire que tu pourrais le faire, hein, même si c'est un acte pas bien. Mais comme il y a le regard des gens, il faut pas le faire. C'est juste. J'ai juste pour se préserver du regard des autres. On dit pas à un enfant ne le fais pas parce que c'est pas bien. Ne fais pas ça, c'est pas bien pour toi. Et puis on lui explique le pourquoi du comment. Non, on lui explique c'est pas bien parce que les gens vont parler. C'est ça. Par exemple, il y a des jeunes qui se retrouvent en prison. Ce serait bien que leurs parents leur disent, tu entaches ton avenir. Voilà, préserve-toi. Voilà, c'est pour toi, pour ton bonheur à toi, pour aller de l'avant, pour ne pas être inquiété par tous les dossiers que tu vas traîner, etc. Voilà, la société a besoin de gens vraiment fiables et soit un homme fort. Tiens, on va pas lui dire ça. Il y en a, oui, mais souvent on leur dit, mais tu te rends compte ce que tu m'as fait là, mon fils, hein, la chouma. Les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire sur moi? Ils sont en train de jaser en disant son fils, il est en prison, etc., etc. Tu te rends compte? Donc c'est genre, je te culpabilise parce que moi, je me sens visée par le regard de la famille, des autres, et je me sens mal par leur jacasserie, etc. C'est pas toi, mon fils, pour ton avenir, pour toi, etc. Voilà, que j'essaie de préserver, c'est le regard des autres. Et je peux t'assurer que bon nombre de personnes disent ça à leur fils en disant, tu te rends compte, tu as jeté la honte sur moi, la chouma, sur notre nom, la famille, Nesami Hadro, les gens, ils sont en train de parler, les gens. Mais on s'en fiche des gens. C'est pas les gens qui sont importants. Et voilà, c'est pas les gens. C'est votre enfant.
Mais malheureusement, voilà. Vanessa, aujourd'hui, oui. Si dans les familles, il y a beaucoup de liens qui se brisent, entre frères, entre frères et sœurs, vraiment au sein de la famille, la plupart du temps, c'est à cause toujours des autres.
Des autres. Moi, tu sais, il y a eu des jeunes. Des autres. Jamel.
Mais Vanessa.
Oui, mais, après, attends, je peux te dire.
Vas-y. Mais Vanessa, moi, je pars toujours du principe, en fait, que les autres, pour moi, ils ont peu d'importance.
À mais, part oui. La famille. Mais oui, parce mais à la famille. Mais tu peux pas dire ça. Tu sais pourquoi?
Non.
Parce que regarde, tu dis les autres, mais à travers ta famille, tu subis quand même le regard des autres.
Oui,
tu comprends?
Non, la famille, c'est ça le problème.
C'est un cercle vicieux.
Mais la famille, c'est ce qui est de plus précieux, vraiment.
Mais justement, c'est là-dessus. C'est pour ça que la famille. Mais la famille joue là-dessus. Bien sûr que c'est précieux, la famille. Mais la famille, c'est pas sacré. Parce que la famille, elle a ses torts aussi. Mais je le dis souvent. Mais je dis même que les parents sont pas sacrés. Pourquoi? Parce que souvent, eh bien, ils jouent ils font du chantage affectif. Et beaucoup dans la culpabilité. Et bon nombre de personnes traînent ça avec eux. Il y en a qui arrivent à faire de ce qu'on appelle la résilience et avancer. Et d'autres pas. Moi, j'ai connu des jeunes qui étaient homosexuels, vois-tu. Eh bien, ils ont traîné ça toute leur vie. Il y en a qui se sont mariés. Leurs parents font peut-être semblant de pas le voir, hein. Mais ils savent très bien que leur enfant est homosexuel. Donc, vite, ils sont dépêchés. Chantage affectif, je te raconte même pas, mais c'est une catastrophe. Vite, fallait le marier. Au lieu de dire, bon, il a une différence, il est différent, et alors, on est tous différents, t'as des blonds, t'as des roux, t'as tout ce que tu veux, il y en a qui font 1m95, d'autres qui font 1m60, je veux dire, on n'est pas taillés tous dans le même moule, et on est tous différents, on aime les choses différentes, on n'aime pas tous le poireau, on n'a pas, je veux dire, mais tu as des gens qui, malheureusement, eh bien, ne supportent pas la différence. C'est-à-dire que s'ils ont, alors, tout est, comment, il faut rentrer dans, vraiment, il faut plaire aux gens. Avant d'aimer son enfant, il faut que son enfant plaise aux gens pour pouvoir l'aimer. Moi, quand j'ai eu affaire, voilà, ça très jeune, hein, très tôt, hein, j'ai aidé des amis à moi qui étaient homosexuels pour justement les préserver. Je me faisais même passer pour leur petite copine. Enfin, il y a eu des choses. Alors j'étais jeune. Ah oui, je t'assure, pour sauver un petit peu. Sauver quelque part leur vie. Eh bien, il se passait des choses, mais incroyables. Vraiment, c'était des gens fragiles et leur famille les accule. Pourquoi? Parce que ils sont homosexuels. C'est pas pour eux, parce que quand on aime son enfant, on l'aime tel quel. Voilà, on choisit pas. Je comprends des familles, je comprends les parents quand ils apprennent que leur fils est homosexuel. Je comprends que sur le coup, ça peut les choquer. Ça, on peut le comprendre. Pourquoi ils sont pas habitués? Et en même temps, parce que ils imaginaient pour lui, ils ambitionnaient des enfants, un foyer, etc. Bon, comme on rêve tous, quand on est petite fille, on rêve, on a des poupées, on rêve d'être, devenir maman, etc. Il y en a qui peuvent pas, et puis c'est la vie, voilà. Mais, alors donc, voilà. Mais dans un second temps, quand on aime son enfant, mais vraiment d'un amour absolu, plus que tout au monde, eh bien, on l'aime comme il est. Un enfant, qu'il ait un handicap, qu'il soit de tout ce que vous voulez, il y a des parents, ils ont des enfants qui malheureusement ont commis des choses graves, mais ils aiment leur enfant. Ils leur mettent à disposition des avocats. Je veux dire, ton enfant reste ton enfant à vie, c'est comme ça. un enfant, voilà, un enfant qui soit, qui une différente sexualité, c'est pas son choix, c'est la vie, ça fait partie de la nature, comme un hermaphrodite qui est de sexe, c'est pas son choix non plus. Alors, donc, les gens regardent les autres en disant, ouais, c'est relonesse, tu te rends compte, ils vont dire son fils, il est homo, maintenant, machin. C'est pas, c'est, mais les gens, moi, j'ai envie de leur dire c'est ce soir. Parce que cette émission, elle sert à ça aussi, elle est pédagogique. Mmh. Moi, j'ai envie de dire aux parents qui découvrent justement la différence chez leur enfant, eh bien, j'ai envie de leur dire ce soir, peu importe, vraiment, les gens sont pas intéressants. On va tous finir, un jour, on va partir et ça va très vite. Le monde, une vie, c'est pas long, une vie. On a l'impression qu'elle est longue, la vie, mais elle est, c'est pas long, c'est vraiment pas long. Rammstein, comme on dit, ça va très vite. Les cimetières sont de plein de gens qui ont vécu, qui ont mal vécu et qui ont été mal aimés, etc. Pourquoi on arrivait là? Il y en a qui sont partis fâchés. Aimez vos enfants.
C'est clair.
Voilà, qu'ils soient tout ce que vous voulez, qu'ils soient homo et tout, et alors qu'ils soient en bonne santé, qu'il ait un bon métier. Voilà votre fierté et qu'ils tombent pas dans quelque chose de mauvais. Mais qu'ils soient homosexuels, c'est pas mortel, il a tué personne. C'est la nature. Si vous êtes croyant, moi je suis croyante, parce qu'il y a des gens qui croient mais qui croient mal. Donc il faut parfois désapprendre pour mieux apprendre. Moi je ne crois pas une seule seconde ces niaiseries, ces bêtises qui nous sortent, que les hommes de l'époque ont inventé pour faire du mal aux autres. Et combien bon nombre de d'hommes de l'époque ont du sang sur les mains. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont condamné des homosexuels. À cause d'eux, ils les ont poussés à mourir. Il y en a qui les ont tués, parce qu'à l'époque, on les tuait. Et il y a encore des pays où on les pend. Et tout ça parce que ils sortent ça de n'importe quoi. Il y a des hommes à l'époque qui ont inventé, sortis de leur esprit complètement tordu, en disant, Dieu a dit, mais Dieu vous a pas parlé. Est-ce que vous pensez vraiment 5 secondes que Dieu parle à un humain? Dieu n'a parlé à personne. Vous imaginez, il est Dieu. Attends, juste ça. Il est univers. Il est Dieu. Il ne parle pas. Il est pas dans notre dimension. Dieu, c'est, vous l'imaginez même pas. Donc il a pas le verbe commun. Il a pas le verbe humain. Il a pas le langage humain, Dieu. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Arrêtez de dire, oui, Dieu condamne, fait. Ça, c'est les hommes qui condamnent. Ça, c'est les hommes qui disent des bêtises. Dieu, il ne peut pas, parce que, pourquoi? Parce que, imaginez l'univers. Eh ben voilà. Ben, vous savez ce que c'est Dieu. C'est l'univers. L'univers ne communique pas avec vous. Il ne parle pas comme nous. Il ne condamne pas. L'univers ne va pas vous dire ce que vous mangez. C'est pas bon, ça, c'est haram. L'univers, non, parce qu'il a tout créé. À vous, vous avez un cerveau. À vous de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. C'est tout. L'univers, ça fait partie. Et l'univers a créé aussi des différences. Comme il y a des homosexuels, il y a des hermaphrodites. Et ça, dans aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans la Torah, on ne parlera d'hermaphrodites. Pourquoi? Parce que c'était méconnu à l'époque. Parce que c'était tellement caché. Parce que les enfants qui naissaient comme ça, peut-être qu'on les enterrait vivants. Parce que pour eux, c'était quelque chose, c'était peut-être pour eux, hein, peut-être qu'ils prenaient ça pour des monstres, j'en sais rien. Donc ils avaient de fausses croyances. Mais dans aucun texte, on a parlé d'hermaphrodites, d'êtres humains qui naissent avec deux sexes. Pourquoi? Posez-vous la question, parce qu'à l'époque, c'était l'ignorant. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. On parlait d'homosexuels parce que ça existait. Voilà, tout simplement. Mais les homosexuels, il n'y a aucun Dieu. Ça n'existe pas que Dieu condamne des êtres humains qui n'ont rien fait. Bon sang de bonsoir. Ils ne condamnent même pas ceux qu'ils font. Alors comment voulez-vous qu'ils condamnent? Ils ne condamnent pas, c'est lui qui crée. Voilà, il y a du bien aussi, il y a du mal dans la vie, il y a de tout. Voilà, tout ça existe, on le sait. On se préserve parce que la justice, moi je crois en la justice humaine. Il y a les tribunaux, heureusement que les humains ont créé des tribunaux pour punir les crimes, etc. Voilà, ça j'y crois. Mais que la tombe qui se rétrécit, machin, etc. Non mais il faut arrêter parce que tout ça, ça nous mène dans une ignorance et on fait n'importe quoi. Il y a des parents... À force de croire que c'est vraiment l'homosexualité, c'est haram soi-disant. Ah oui, les autres religions aussi ils le disent. Et alors, les autres religions, ils disent des bêtises aussi. C'est pas parce qu'ils disent n'importe quoi que moi, je vais tomber dans le truc en disant, les autres, ils disent n'importe quoi, ben moi aussi, alors, il faut que je suive. Non! Je suis désolée, je vais pas me jeter d'un pont parce que l'autre, il se jette d'un pont et que c'est halal. Donc, arrêtez de condamner.
Tu as tellement raison.
Mais oui, arrêtez. Je leur dis. Mais oui,
Vanessa.
Ça me tue. Mais tu peux pas t'imaginer.
Vanessa, non, mais en fait, je pense exactement comme toi vis-à-vis justement des personnes qui, soi-disant, font justice eux-mêmes. Ils ont créé les règles eux-mêmes et c'est comme ça et pas autrement.
Mais oui.
Et ce qui m'insupporte, et tu l'as très bien dit, et moi je le vois régulièrement, c'est Dieu, il a dit ça. Mais t'es qui toi pour dire ça? Mais qui es-tu? Tu dis Dieu, il a dit ça pour certaines choses. Oui. Par contre, quand tu fais des bêtises et que tu commets vraiment des actes très très graves, là Dieu il est pas là.
Non non. Ah, ils te disent Dieu a dit dans c'est écrit dans les Écritures que il y a un homme et une femme. Non, il y a aussi un troisième sexe qu'on appelle hermaphrodite, c'est-à-dire deux sexes chez un être humain. Pourquoi Dieu l'a pas dit dans le Coran et dans la Bible et de machin si c'est pas été écrit par les hommes? C'est les hommes de l'époque, ils voulaient tellement inventer des règles qui leur ressemblaient, hein, et ça a toujours été, parce qu'il y a des milliers, des millions de religions. Donc avant que ces trois religions arrivent, il y en a eu avant. Donc à chaque fois, on a inventé des religions pour adapter aux époques. Et comme par hasard, aujourd'hui, il y a plus rien. Bah oui, aujourd'hui, il y a plus de place pour les religions, et c'est tant mieux. Alors donc, le problème, c'est les hommes. Voilà. Moi, quand je dis je crois en Dieu, tu sais ce que je crois? Moi, je crois en l'univers, parce que pour moi, Dieu, c'est l'univers, tout simplement. Et on est à l'intérieur de cet univers, voilà, c'est tout. Mais ce Dieu qui est tortionnaire, qui vous pend, qui vous brûle, qui vous mène en enfer, vous marchez sur le feu, et vous torture dans la tombe, il vous envoie un ange pour vous torturer, enfin un ange qui vous torture dans la tombe et machin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des légendes, mais vous rendez compte, monstrueuses. On a juste envie de. D'ailleurs, il y a aucune solution pour s'en sortir, parce qu'on se dit, ah, j'ai envie de mourir pour pas vivre ça. Mais si tu meurs, tu vas le vivre.
Ça s'empire de plus en plus.
Mais c'est fou. Comment on peut tomber dans?
Plus maintenant, les gens, en fait, ils deviennent de plus en plus donneurs de leçons, et plutôt que de regarder devant leur porte.
Mais oui, parce qu'ils ont des prêcheurs, là, ils ont des gourous. Ils ont des prêcheurs qui leur racontent n'importe quoi, ça leur apporte. Hein. Ça, c'est un tiroir caisse.
Tu te souviens d'une auditrice que tu as eue qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Myriam. Je crois que c'est Myriam.
Oui.
Qui concevait pas de se marier. Tu me corriges, hein.
Oui. Je crois,
elle concevait pas de se marier tant que ses enfants n'avaient pas grandi et qu'elle donnait plus la priorité à son enfant plutôt qu'à elle-même.
Alors, elle est mariée, tout ça et tout. Alors, elle a jugé, pire encore, elle a jugé une auditrice qui, elle, s'est mariée ou pensait se marier, etc. Alors qu'elle, voilà, elle a des enfants et voilà. Alors, donc pour elle, elle ne concevait pas qu'on puisse, quand on a divorcé, eh bien, il faut, elle, c'est encore autre chose, hein. Quand on a divorcé, pour elle, eh bien, on doit se consacrer à ses enfants, même si on est très jeune, même si on a 20 ans, hein. C'est-à-dire, t'as 20 ans, t'as un enfant ou deux, ton mari, il est parti, papillonner ailleurs, il est parti avec une autre, il fait des gosses et tout. Alors moi, je lui dis, ah oui, d'accord, la pauvre jeune femme qui se retrouve seule avec un enfant, lui, il est parti, il a fait des enfants ailleurs, il vit sa vie. Elle dit, ben, tant pis, elle doit se sacrifier. Oui, tu sais, à force de tradition lourde, de tradition qu'on a mélangé avec les religions, les machins, tout ce que tu veux, mais c'est vachement lourd tout ça, la vérité, hein.
Non, mais c'est ça.
Mais regarde les gens, leur cerveau explose, ils te disent n'importe quoi. Non, tu te sacrifies. T'es une femme, tu te sacrifies. Non, mais ça va pas, non. Comment, je suis une femme, je me sacrifie. Lui, il vit sa vie machin chouette et tout, mais ça va pas.
Moi, elle avait même dit, si je me trompe pas, que si le mari il est parti envers une femme, ça veut dire que toi,
oui,
en tant
c'est
que
ta
femme,
faute.
T'avais quelques problèmes. C'est
oui,
ta faute.
C'est ta faute. Voilà. C'est toujours la faute de la femme, de toute façon.
Comme par hasard, c'est toujours la faute de la femme. Mais l'homme, lui, il est irréprochable.
Ah, mais dans certaines cultures.
Mais moi, tu sais, j'étais énervée le jour où t'avais justement.
Oui, parce que les femmes sont les ennemis des femmes.
Mais oui, c'est ça.
Tu sais, Jamel, c'est bien que tu évoques ça, parce que les femmes, certaines, sont les ennemis des femmes. Parce que tu sais, quand dans nos traditions que je dénonce, vraiment, je brise les tabous dans cette émission parce que nulle part ailleurs tu l'entends, parce que c'est toujours, tu sais, on couvre. Eh bien, il y a des tabous dont un qui m'a, dans mon adolescence, c'est un truc qui m'a choqué, tu peux pas t'imaginer. Je serais devenue bonne sœur, Wakela, si j'avais été chrétienne. Non, mais ça, c'est de la folie. Ah oui, t'imagines? Non, mais pour te dire, tellement c'est traumatisant, quoi. C'est l'histoire de la virginité. Ben moi, ça me choquait. Quand je partais dans mon dans ma ville natale de mes parents, etc., en vacances, quand j'étais jeune, nous, on était contents. Tu sais, t'as 16 ans, t'es contente. Tu te dis, oh, on va assister à un mariage, c'est chouette. Donc nous, tu sais, tu rêves. C'est comme les contes de fées, quoi. Tu vois, moi, je lisais beaucoup. À l'époque, c'était Cendrillon, la Belle au bois dormant, le prince charmant et tout. Moi, j'ai sur son beau cheval blanc qui vient chercher. Donc, il y avait tout ça. Moi, j'étais dans le rêve. Donc, ce qui fait que je partais... parce qu'il y avait un mariage familial, c'est génial, j'étais contente, je dis à ma mère, oh, faut que je m'achète une belle robe, une belle tenue et tout, tu vois, je faisais les magasins ici, et je me choisissais ma belle tenue, mes beaux souliers, tout ça, enfin, puis là-bas, j'allais chez le coiffeur, je voulais être vraiment la plus belle, quoi, comme toutes les petites jeunes filles. Et puis là, il y avait toute cette joie. Et puis chez nous, on fait des beaux mariages, la vérité. On aime bien la musique, on danse avec les cousines. Le soir, on se raconte des histoires, on danse et la musique et tout. Ce côté-là est magnifique. Mais à l'autre côté, qui vient tout gâcher. Parce que ça, je l'ai vécu, cette joie, ce bonheur où je dansais, la musique et tout ça. Les tourne-disques à l'époque au Denia et tout ce que tu veux. On était au Derbouka. T'imagines? Ah oui, toi, tu vis en France et t'arrives là-bas, cette culture t'adore, quoi. Alors, donc, t'es complètement dedans, t'es dans une merveille. Et d'un seul coup, ah, tu retombes, tu sais quoi, tu tombes d'un gratte-ciel. Pourquoi? Parce que toute cette joie, elle tombe. Mon cœur, je croyais qu'il allait sortir, mais je savais pas tout ça. Mon cœur, il allait sortir de ma poitrine, tu sais quoi? Eh bien, dans la nuit, j'entendais ces femmes parler, machin et tout, de sortir la chemise et tout, c'est quoi, enfin tout ça, ils attendaient, voilà, inquiets, et puis d'un seul coup, j'entends les you-you, et je me lève, je me réveille, parce que on dort tous dans le même endroit, hein, on est ou tous dans des pièces, toutes, voilà, avec les cousines, tout le monde dort ensemble et tout, donc on est réveillé par les you des femmes, on va voir, et puis les cousines là-bas, elles sont habituées, donc elles ont vécu là-dedans, donc elles disent, viens voir, la chemise et tout, comme elles disent, toi, tu sais pas trop, tu dis, quoi, tu vois, et d'un seul coup, tu vois les you-you. Et tu vois une chemise blanche, immaculée, et tachée de sang. Oh! En pleine nuit, hein, tu crois que t'es dans un cauchemar, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et les you-you, elles ont l'air contentes, en plus, de voir du sang. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont tué un poulet, mais qu'est-ce qui... Ah ouais. Alors tout le monde dit, ah oui, c'est bien, elle était vierge et tout, la fille et tout, parce que, toi, et tout, ils sont contents, C'est horrible. Je trouve ça, barbare, ignoble, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, il y a des traditions, comme les excisions. Tout ça, c'est des barbares. Moi, il y avait une jeune fille, tu sais, un jour, j'étais avec, moi, je suis très curieuse. Je suis quelqu'un qui, quand j'étais jeune, j'étais très, très observatrice, très curieuse. Donc, j'étais en train d'écouter des femmes en train de parler d'un mariage qui avait eu lieu, quelques temps avant, tu vois, auparavant, puis d'une jeune fille qui était décédée. Alors moi, mon oreille, vraiment, elle se pointe là. Et elle dit, ah oui, Mskina, machin et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elle dit oui, parce que elle s'est mariée, elle a une petite jeune fille, peut-être, elle avait 18 ans. Elle dit, elle s'est mariée, puis l'ignorance fait que, comment dire, tu sais qu'il y a des femmes qui sont vierges, mais l'hymen, ils seront pas parce qu'il est élastique. Ou alors, il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen. Chose qui arrive. La nature est ainsi faite. On n'est pas toutes taillées dans le même tissu, bon sang de bonsoir. Alors, alors qu'est-ce qu'elle fait? Il y en a même qui ont un cœur plus grand que l'autre, tu vois, un cœur plus. Alors donc, on n'est pas fait pareil, nos organes. Et cette jeune fille Mskina, eh bien, il y a eu le mariage. Elle confiante, elle sait pas, elle la pauvre. Et puis le soir des noces, quand elle rentre et tout dans la chambre, voilà, dans l'abattoir, moi j'appelle ça, parce que dis donc, bonjour le romantisme. Alors. Ben il y a pas d'hymen ou il y a rien quoi, il y a pas d'hymen. Le mari qui sort et tout, parce qu'attention, parce que l'éducation, tu vois, les hommes et tout, vous êtes des bonhommes, les femmes, tu vois, il sort de là-dedans, disons à ses parents, voilà, elle est pas vierge quoi. Alors les familles, les pleurs, les larmes, les cris, les tout ce que tu veux et tout. Waouh. La fille, Mskina, t'imagines tout ça pèse sur ses épaules. C'est-à-dire que des générations pèsent sur des épaules frêles d'un petit nourrisson qui naît malheureusement fille dans ces cultures. Alors Mskina, la petite jeune fille, elle a eu peur. Elle a vu les cris, les machins, les pleurs, les machins, et tout ça, l'honneur, chouma et tout. Elle comprend pas ce qui lui arrive, elle a rien fait. Elle sait même pas ce que c'est hymen, Mskina. Elle ne sait pas. Alors donc elle se retrouve au milieu de tout ça, et elle entend qu'elle est pas vierge, attends, reprenez votre fille et tout. Alors que la pauvre, le ciel qui lui tombe sur la tête, imagine ce que c'est, la panique, la peur panique. Tu sais ce qu'elle fait? Elle monte, elle court, elle va sur la terrasse de l'immeuble ou de la grande maison, sur la terrasse, et elle se jette dans le vide et elle meurt.
C'est incroyable.
Voilà.
Non, mais tu sais quoi,
voilà. Elle est belle, la culture, en fait. Elle est très belle. Voilà, les traditions.
C'est incroyable.
Religion,
en fait,
tradition.
On se rend même pas compte, c'est qu'on a, en fait, on a transformé la femme en objet dans cette situation-là.
Bah,
c'est
oui.
moi qui la gère, c'est moi, en fait, qui en fais ce que je veux.
Ah oui, oui, oui.
Ah non, la femme, elle est pas vierge. Vous la reprenez? Non, mais.
Ah, bah, oui.
C'est quoi cette culture?
Ah, oui, retour à
l'envoyeur.
Oui, oui, c'est retour à l'envoyeur.
Mais en fait, moi, je dis tout.
Service après-vente.
En fait, qu'on fasse la même chose à votre mère ou à votre grand-mère. Qu'est-ce que vous auriez pensé? Vous avez beaucoup d'estime pour votre maman, pour votre grand-mère. Vous la respectez énormément parce que vous l'aimez beaucoup. Mais, vous faites, en fait, subir quelque
mais
chose à votre.
Excuse-moi.
Votre belle
voilà, je suis d'accord avec toi. Mais
horrible.
Mais les femmes sont les ennemies des femmes. Parce que, normalement, dans un monde, entre guillemets, normal, on brise tout ça, c'est fini. C'est des gens qui ont, aujourd'hui, les femmes, elles ont étudié, tout ça. Normalement, non. Ta fille, son intimité ne te regarde pas. Moi, je sais pas, moi, ma fille, mais son intimité me regarde pas, mais un point. Comme, mon fils, ma fille, pareil, c'est la même chose. Je vois pas la différence. Donc, leur intimité ne me regarde pas. Déjà, ils ont pas demandé à venir au monde. Ce monde, il est dur. En plus, si je rajoute encore des chaînes et des chaînes. Non, mais attends, mais c'est pas possible. Même mes chiens, je veux dire, pour moi, mes animaux, je veux qu'ils soient libres et sans, vivre sans contrainte. Alors, imagine mes enfants, mais c'est pas possible. Si on aime ses enfants, on a envie. Je veux dire, ils sont libres. On a envie d'être libres. Moi, j'ai toujours revendiqué ma liberté. Toute jeune, je voulais être libre. J'étais libre dans ma tête, même si je recevais une éducation. Je dirais pas hyper strict, mais strict. Attention, hein. Attention. Ah ouais, les garçons,
ah,
machin et tout.
Pour moi, hein.
Ouh là 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 là. Ah oui. Ah bah pareil, les garçons et tout, ça va pas, non? Ouh. Mmh. Alors, donc, je sais que j'avais peur de ça. Donc, ce qui fait que, mais dans ma tête, j'écrivais beaucoup. Et ma liberté, je l'ai trouvée dans l'écriture, tu vois. Donc, j'écrivais, je me libérais parce que je m'inventais des personnages et j'étais au milieu. Voilà, un personnage libre parmi des personnages libres. Et je m'inventais, si tu veux, tout un monde, vraiment une planète. Donc j'étais partie là-dedans. Et ce qui fait que dans ma tête, je savais qu'un jour, eh bien, parce que je suis têtue, entêtée, eh bien, je savais, je me disais, on fait de mal à personne. On est libre, on a le droit d'être libre. Pourquoi on nous empêche d'être libre? Je comprends pas. Donc à un moment donné, tu fais plaisir aux gens. Tu vois, par exemple, il faut te marier comme il faut et tout, tradition et tout. Mais dans ta tête, tu sais très bien que tu vas te libérer de tout ça. Ok, tu dis, je vous ai fait plaisir. Ok, mais là, j'ai pas trouvé mon bonheur, voyez-vous. Donc maintenant, stop. Hein, la comédie, elle a assez duré.
C'est
et maintenant,
sûr.
Maintenant, je vais être heureuse et je vais chercher moi-même mon bonheur. C'est comme ça qu'il faut réagir. Il y en a beaucoup de femmes qui le font, c'est comme ça.
Ah mais mal. Et aujourd'hui, il y a encore des familles qui ont toujours des coutumes des anciennes générations et qui font encore subir ce que tu viens de raconter dans ton histoire de la même manière. Mmh. Et malheureusement, et comme par hasard, et tu sais quand tu disais que cette fille s'est jetée du gratte-ciel, comme par hasard, c'est quand elle est morte. Oh, on n'aurait pas dû refaire ça. Je suis vraiment désolée. C'est toujours quand la personne décède qu'on se rend compte des choses. Quand elle est vivante, on l'a fait souffrir, mais à un point où en fait on l'a tue vivante.
C'est ça.
C'est vraiment ça, hein. On l'a tuée vivante. Et elle, en fait, pour arrêter justement tous ses caprices et tous ses misères qu'on lui a fait subir, ben, elle n'a pas le choix que de se donner la mort. Et c'est vraiment très, très triste. Regarde la jeune fille qui s'est donnée la mort, tu en as parlé en début de semaine. C'était une fille qui était scolarisée et je crois qu'elle s'était pendue. Tu en avais parlé.
Oui, la petite Noëlla, mon Dieu.
Voilà.
11 ans.
Tu vois. Donc, en fait, il faut que les parents soit là dans la communication, dans la pédagogie, dans l'explication. Et si l'enfant, il vous parle des choses qui sont taboues pour vous, arrêtez de le juger, arrêtez de lui dire « Non, ça c'est haram, non, ça c'est pas bien. » Écoutez-le et expliquez-lui les choses de façon pédagogique. Comme vous, en tant que parent, vous avez été adolescent, vous avez été jeune et vous avez voulu faire des choses un peu dans l'interdit, soyez dans l'empathie et expliquez les choses à vos enfants sans pour autant lui donner des restrictions. Ah, oh, je veux plus en entendre parler. Si tu en reparles, je te mets un coup de boule. Non, c'est pas possible, ça, moi.
C'est ça.
Ça me met hors de moi, ce genre de
choses. Mais oui, puisqu'on permet aux garçons, eh bien, on le permet pas aux filles. Quand tu parles avec les gens, ils te disent, Ouled, voilà, c'est un homme, c'est normal. Pourquoi c'est normal, c'est un homme? Pourquoi? Parce qu'il a un petit truc là en plus, là, soi-disant, enfin, enfin, qui pendouille. Non, mais c'est vrai, c'est énervant.
Non, mais c'est, sûr,
non, mais c'est vrai, il y a, je veux dire, il y a pas de quoi, comment dire, être fier plus que ça, quoi, enfin. Et puis, je sais pas, c'est, comment t'expliquer? Voilà. Parce qu'il est garçon, alors.
On parle de sexe fort pour l'homme et sexe faible pour la femme.
C'est
même
vrai.
Dans le dictionnaire.
Ah oui. Ah oui. Sexe fort.
Tu
oui.
te rends compte? Déjà, si tu le vois dans un livre comme ça qui est étudié par une tonne d'académiciens, tu te dis, mais. What?
Ouais.
Non, c'est incroyable.
Mais... Bah oui, non, mais c'est ça. Tu sais.
Pourquoi fort?
C'est un garçon. Pourquoi? Parce que. Non, mais les gens, ils sont complètement, mais vraiment. Dire que nous, les femmes, eh bien, juste parce que, anatomiquement parlant, eh bien, on a un truc qui est différent. Eh ben, pourtant, on fait les enfants, nous. Hein. On les met au monde. Hein. C'est nous ça. Qui mettons au monde les enfants. Donc, on a une force supérieure aux hommes. Il y a un homme de ma famille qui a eu un enfant ces derniers temps, qui me dit, qui a assisté à la naissance, qui me dit, oh, mon Dieu, j'aurais jamais pu... C'est pas, heureusement que je suis un homme. Hein. Il dit, c'est malheureux de dire ça. C'est-à-dire, il dit, c'est malheureux parce que ça lui a fait de la peine pour sa femme. Il dit, c'est malheureux ce que je vais te dire. Mais il dit, mais... Oh, Dieu merci que je sois un homme, hein, parce que tu vois, il reconnaît, il dit les femmes sont plus fortes que nous, hein. Non, il dit les femmes sont plus fortes que nous, il reconnaît ça. Il dit parce que nous, les hommes, je crois que, oh, il dit mais on mourrait, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je pense qu'on a une force supérieure. Donc le sexe fort, c'est le sexe féminin. C'est la femme qui met au monde un enfant, porter 9 mois un enfant. Mmh. Et le jour de l'accouchement, vous pouvez même pas imaginer les douleurs que c'est. Vous pouvez Exactement. Même pas imaginer ce que c'est. Mmh. C'est très dur, c'est très con. Vous avez l'impression que vous allez mourir, quoi. Vous étouffez. C'est la douleur.
Ah non,
il n'y a aucune douleur qui ressemble à ça. Donc,
oui.
Porter un enfant, le sortir de votre ventre, ouais. De vos entrailles, le mettre au monde, etc. Mais c'est la femme qui est forte. C'est elle le sexe fort. Faut arrêter les bêtises. Les hommes, il est où son sexe fort? Juste parce qu'il a des muscles. Il a des muscles, c'est tout. Pourquoi il porte des poids? Mais il porte rien, lui.
Il y a aussi des femmes qui ont des muscles. Hein.
Mais oui.
Il y a aussi des femmes
mais,
qui sont fortes.
Oui, hein. Mais les muscles, ça ne veut rien dire.
Hommes, hein.
Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin de muscles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes routières qui nous appellent à l'antenne. Et avec. Elles appuient sur un bouton et ça descend et ça monte le monte-charge, là. Il n'y a plus besoin maintenant. On n'a plus besoin de. Il n'y a plus besoin, classe. Les femmes font les mêmes métiers que les hommes. Donc, voilà. Et le sexe fort, c'est le sexe masculin. Féminin. Par contre, il y a une chose, c'est les femmes, arrêtez d'être les ennemis de vos filles. Arrêtez. Arrêtez d'être les Exactement. Ennemis de vos filles, bon sang. Mmh. Ça suffit.
Il faut jamais faire subir, en fait,
ben
à sa fille ce qu'on n'aurait pas voulu
ben oui.
qu'on subisse quand on était jeune.
Ben elles préservent leur fille voilà. pour... alors, ça préserve la fille, l'honneur de la famille sur un petit bout de comment on appelle ça, de chair qui ne fait même pas papier de cigarette. Ça, pour c'est qui l'honneur. Ah oui, préserver l'honneur, pour qui? Peut-être pour un salopard, excusez-moi du terme. Hein.
Mais c'est ça.
Parce qu'il y a des hommes qui font souffrir des femmes. Je dis pas tous, mais il y a des hommes.
Mais oui.
Oh, écoutez la souffrance des femmes. Peut-être qu'il va la tromper, peut-être qu'il va, il va l'abandonner. Peut-être. Et elle va se donner à lui. Moi, je connais une femme, ce qu'il y a une jeune, qui se confie souvent à moi et tout, que j'adore et qui m'adore et tout. Et elle est pas de ma famille, mais bon, en moi, elle a trouvé en tout cas du réconfort. Eh bien, elle est toute jeune. Elle a une trentaine, elle a des enfants. Eh bien, elle s'est préservée comme voilà. Elle était vierge parce qu'elle a tout ça. Eh bien, un jour, elle était enceinte et elle découvre que son mari est parti mettre enceinte une autre femme. Donc, elles étaient enceintes en même temps. Et du coup, ils ont. Il y a eu divorce. Elle a divorcé parce qu'elle était enceinte. Elle a
accouché. Voilà l'honneur.
Elle a accouché.
Voilà la belle honneur.
Elle a accouché de son enfant toute seule. Lui, il n'était pas là. Et lui, il était avec l'autre femme. Et aujourd'hui, il est avec l'autre femme. Et elle élève toute seule ses enfants. Voilà, elle était vierge. Hein. Alors voilà l'honneur. Mais arrêtez, faut arrêter les bêtises. Hein. Moi, je veux jamais.
Je suis d'accord avec toi.
Ah oui.
Je suis d'accord.
Jamais, je voudrais que ma fille vive, mon enfant vive vraiment, donne son l'honneur. L'honneur, il est ailleurs. L'honneur, il n'est pas entre les cuisses d'une fille, d'une petite fille, d'un bébé. L'honneur, il est ailleurs. L'honneur, c'est quand un homme, il travaille pour sa famille, Barq Djbeno, avec la sueur de son front. Il nourrit sa famille, il protège sa famille, voilà. Il éduque ses enfants.
Et c'est ça.
L'instruction et l'éducation, il se serre la ceinture. C'est pas, il va faire des villas ou des niabchezours.
Voilà.
L'argent, tout ce qu'il gagne, C'est pour, il assume l'éducation de ses enfants et il en fait des diplômés, des gens avec des diplômes, etc. plus tard. Ça, c'est l'honneur. Mais l'honneur entre les cuisses d'un petit bébé nourrit son fils, c'est ça l'honneur d'Elcom. Non mais attends, franchement, moi je suis sortie de plein de choses il y a très longtemps, parce que c'est pour moi tout ça, tu vois, tradition, religion, tout ça, ça fait beaucoup. Et malheureusement, dans ces cultures, les pays n'ont pas évolué. Ça prouve, hein. Il y a des pays, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont toutes les richesses du monde, mais ils évoluent pas. Pourquoi ? Parce que les traditions sont trop lourdes. Oui.
Et Vanessa, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, c'est des personnes qui, voilà, qui se sont mariées très jeunes, qui n'ont pas eu le temps d'avoir une éducation, voilà, au niveau de l'école, plein de choses. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en fait, quand ils essayent de se défendre, ils mettent systématiquement les choses sous le coup de la religion, sous le coup de ce qu'on leur avait transmis.
C'est pour ça que je te dis
jamais dans l'explication et jamais en fait dans tu devrais faire.
On a la religion qu'on mérite, mon cher ami. Tu sais, chaque peuple a la religion qui lui ressemble. Pourquoi ? Parce que c'est comment dire ? Ben c'est culturel. C'est culturel.
Oui, c'est culturel.
Un Inuit, il a la religion qui lui ressemble. Il vit dans le fin fond des glaces là-bas avec les Esquimaux. Ouais. Donc chacun la religion de ce qui lui ressemble.
Ouais, ils font leur propre religion en fait. Même la religion islam ou même les autres religions, ils les trafiquent en fait.
Depuis la nuit des temps.
Foireux de la religion. Et ils salissent la religion musulmane, mais à un point, tu peux même pas l'imaginer. Bah,
moi je dis, les religions, Dieu, et ça je maintiens, c'est moi qui le dis, et je le pense fortement, Dieu n'a parlé à personne. Les religions, tout ce qui est écrit, ressemble beaucoup à des fantasmes, ou à des règles, des lois, des désirs humains. Il n'y a rien de divin. Il n'y a rien qui m'épate en disant, ah, mais c'est épatant. Ah, c'est extraordinaire. Non, il n'y a rien qui m'épate. C'est très humain, tout ça. On voit qu'il y a la patte humaine. Et que Dieu est loin, loin de tout ça, puisque lui, il est univers. Et que l'univers ne peut pas avoir des comportements ou des idées humaines. Ça, c'est des idées humaines, hein. Tout ce qu'on lit, ça ressemble beaucoup à l'humain. Il y a des gens qui disent, ah non, il y a tout, c'est extraordinaire ce qu'il y a, c'est exceptionnel. Bah écoute, franchement, vous trouvez exceptionnel. C'est vrai qu'on trouve l'extraordinaire là où on veut le trouver. Hein. Moi, par exemple, il y a des recettes, je trouve qu'elles sont de cuisine, je trouve qu'elles sont extraordinaires et j'essaie de les élaborer chez moi, dans ma cuisine, parce que je les trouve extraordinaires. Mais moi, je les trouve. Et peut-être ma voisine va pas les trouver extraordinaires. Elle a un autre regard. Donc, voilà. Tout ça, c'est fantasmagorique. Moi, tu sais, tout simplement, moi, je dis aux gens, arrêtez un petit peu, regardez un peu plus loin que le bout de votre nez.
Tranquille.
Voilà, laissez vos enfants et surtout les films secondes. Voilà.
Exactement.
Voilà mon Jamel.
Arrêtez de leur mettre trop de limites. Franchement, j'ai passé une heure formidable. Merci beaucoup, Vanessa. Franchement, tes conseils, ils sont top. Et franchement, j'écoute tous les jours ton émission. Je te l'avais déjà dit, mais.
C'est gentil.
Mais j'aime beaucoup, en fait, ta franchise. Et puis, t'es quelqu'un qui ne te laisse pas faire et il y a vraiment beaucoup de personnes qui devraient prendre des leçons. Et en plus, et tu sais, moi j'ai toujours respecté les femmes qui font des émissions à l'antenne. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des émissions à l'antenne. Oui. Et toi, qui fais ça, je crois, depuis pas mal d'années, franchement, c'est vraiment génial de la part de Beurre FM de pouvoir mettre une femme à l'antenne et qui ose dire ce qu'elle pense. Et ça, c'est top.
Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très touchée, très 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 touchée. Merci beaucoup. Merci d'être fidèle en tout cas. Je t'embrasse fort, Jamel.
Bonne soirée.
À bientôt. Au revoir, Jamel. Au revoir. 01 53 48 3000. C'est très sympa ce qu'il m'a dit, Jamel. Je suis très touchée, vraiment. Alors, donc, alors ce soir, nous parlons... Je sais plus de quoi on parle. Alors, donc, il est où mon sujet ? Il est où ? Oh, je ne retrouve plus. Ben oui. Ah oui, alors il y a un autre Jamel qui m'écrit un message en privé. Il dit, effectivement, certaines traditions ne poussent pas à l'épanouissement et au bonheur. Et il rajoute, bravo de briser des tabous. Les tabous. Ben écoute, merci à toi aussi, Jamel, qui m'écrit en privé. 01 53 48 3000, il faut les briser les tabous parce que sinon on va continuer dans notre ignorance et dans la politique de l'autruche et Zama faire semblant. Toute notre vie on a fait semblant. Nos grand-mères elles ont fait semblant, nos mères elles font semblant. Et nous, on va faire semblant ? C'est pas possible. Non, non. Ah non ! Moi, quand autour de moi, même ma mère, si elle dit oui, Ness, dès qu'elle ouvre la bouche, elle dit Ness, je dis stop, oula, stop. C'est, pour moi, c'est un mot, ça, c'est tabou. Ness, je m'en fiche, je m'en tape. Je veux pas entendre parler de Ness. Voilà. C'est un truc, ça me donne des éruptions, c'est des boutons. Voilà, je fais de l'allergie au Ness. Voilà, tout simplement. Parce que Ness, ils font pas ta vie. Une fois que t'es enterré sous terre, Ness, il continue à vivre. Et t'inquiète pas que t'es vite oublié. Alors, donc, tant que je suis en vie, les Ness, je les ignore. Voilà, et je fais ce que je veux. Je suis une femme libre. Comme le vent, vive la vie et vive la liberté, n'est-ce pas, Giovanni? 0153 48 3000. On a Karim, après on a Nadia de Paris et Fatima, la philosophe. Karim de Malakoff. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Karim.
Oh là là, j'ai presque plus de batterie là sur mon téléphone.
pardon, Karim. T'es en voiture? T'es en voiture?
Je ne veux pas rester longtemps. Là,
d'accord, vas-y, Karim. Vas-y, ah ouais, à toi.
Je me suis dit, elle est partie loin, Vanessa. Oh là là.
Ah ben, il faut discuter. Dans la discussion, j'ai eu la lumière.
C'est partout, on s'est dit, vas-y.
C'est que les gens, ils ne vont pas loin, justement. Ils restent en surface. Ils vous endorment.
Ouais. Ah là, t'es parti, je sais pas, t'étais à Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, t'es. Je sais pas, tu t'es perdu, sur quelle autoroute?
Oui, je sais, ça peut pas être compréhensible par tout le monde. C'est un langage que vous avez pas l'habitude d'entendre. Donc, il y a quelque chose qui vous échappe.
Bah oui, le sujet.
C'est normal. Je comprends que ça vous échappe. Vous êtes pas habitué. Briser les tabous, c'est pas donné à tout le monde, hein.
Attends, Vanessa, tranquille. À un moment, t'es parti dans la tout là-haut. Et je me suis dit, ouais,
alors vas-y, toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a dit?
Ah ouais, là, c'est parti super loin. Là-bas,
oui, alors vas-y, super loin, c'est des choses qui existent. Tu sais, quand je raconte cette jeune fille qui s'est jetée, ça t'a pas fait mal au cœur? Ça aurait pu être ta petite sœur ou ta fille qui s'est jetée, qui est morte. Pardon?
Il y a plein d'histoires comme ça qui font.
Oui, mais il y en a plein, il faut les évoquer. Pourquoi les laisser dans les oubliettes?
Il faut les évoquer, ouais, bien sûr.
Et quand on en parle, ça fait réfléchir les gens.
Ah, ça fait réfléchir.
Pour éviter, si on peut sauver une ou deux vies, c'est toujours ça.
Ah, ça, je suis d'accord. Eh bon.
Alors, dis-moi, Karim, qu'est-ce que tu veux me dire?
Ouais, sur la solitude, hein. Comme même,
est-ce que toi, tu te sens seul? Tiens, on est dans la solitude. Est-ce que tu es seul?
Là, je suis seul.
Là, ce soir, mais est-ce que tu souffres de solitude, non?
Non, je souffre pas du tout. Alhamdulillah, moi, ça va très bien. Je suis marié, j'ai mes filles, ça va
d'accord.
Très bien. Mais je sais qu'il y en a. C'est pour ça, ça me touche. C'est un sujet qui touche, hein. C'est pour ça aussi que j'appelle.
Ben bien sûr, il y en a beaucoup.
La chanson de Laura Pausini, là. Tu connais celle La solitude, mais.
Je sais pas. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais tu as des gens qui la recherchent, cette solitude. Peut-être parce qu'elles ont mal vécu une vie avec, au moins en famille ou en couple, et qui recherchent à un moment donné la solitude. Mais est-ce que tu penses qu'on peut rester longtemps seul? Moi, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'être, d'avoir un foyer, d'avoir, tu vois.
Et t'en as qui diront mieux être seul que mal accompagné.
Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, je suis d'accord.
On a vécu des mauvaises histoires qui sont tellement traumatisées qu'ils préfèrent ne pas revivre ce qu'ils ont vécu.
C'est vrai.
Si tu nous écoutes là, je sais qu'il y en a, ils disent, ah, il a pas tort. Ça arrive. Mais franchement, c'est sûr, faut pas rester seul. Il faut discuter, faut effacer les défauts, faut essayer voilà de les mettre de côté ou carrément de l'autre côté pour discuter avec les gens. Faut pas se renfermer.
Mais tu en as, c'est difficile parce que ils te trouvent pas. Tu as beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, à notre époque, tu as de plus en plus de personnes qui souffrent, hein, je dis bien, qui souffrent de solitude. C'est pas ils vivent seuls, ok, mais tu en as qui souffrent de solitude. Tu en as pour plein de raisons. Tu en as parce que, et hélas, malheureusement, regarde aujourd'hui l'égoïsme, notre égoïsme à nous les humains. Tu as des personnes, on l'entend souvent même à l'antenne, hein, tu as des personnes parce qu'elles sont tombées à un moment donné malades, elles ont eu des maladies graves, eh bien les gens s'éloignent d'eux. Leur téléphone ne sonne plus. Comme si, tu vois, elles ont peur de la maladie. Tu comprends? Elles s'éloignent. Alors que quand t'es malade, t'as besoin d'être soutenu. Ben non. Tu en as, après un divorce, ces personnes, hommes et femmes, hein, se retrouvent seules. Il y a des hommes aussi qui souffrent de solitude, qui se retrouvent seuls. C'est très compliqué. Ou alors, le pire, c'est les personnes âgées. Alors ça fait de la peine, hein, par contre. Beaucoup de peine. Les personnes âgées qui sont seules. Tu en vois Karim dans la rue, souvent.
Ah, ben bien sûr.
Ça, c'est terrible, hein. vieillir seul, tu vois, c'est waouh.
Qui meurent chez eux et c'est les voisins qui juste ils ont senti par la propre odeur de la mort.
Ouais, c'est vrai.
Comme ça, qu'ils entendent que ça fait une semaine ou des fois pire que le voisin est mort.
Des fois un mois ou l'acteur, c'est vrai.
Mais ouais, et c'est pour ça, faut toujours les voir les anciens. Faut pas les oublier jamais, parce que tôt ou tard ça nous arrivera à nous aussi quand on vieillira.
Bien sûr. On a tous besoin les uns des autres. On n'est pas fait pour vivre seul, de toute façon. C'est très compliqué.
Enfin bref, j'ai carrément oublié de passer le bonjour à l'équipe, hein, Giovanni. ils sont là, ils sont flex.
Nous sommes que deux. Il y a Giovanni et moi. Le reste de l'équipe, ils sont là dans la journée. Hein. Voilà.
Je comptais passer le bonjour quand même à l'équipe. Hein,
peux. Hein, ils vont le savoir. On va leur dire.
Ah, bien sûr.
Oui, parce que tu m'as dit comment s'ils étaient là. Non, on a chacun des heures différentes. Hein, donc, à partir du matin, Kim, Mouna, de 6h à 9h, donc c'est la matinale. Mmh. Ensuite, bon, il y a Philippe Robichon, mon collègue. Et on est tous une famille ici. Voilà.
Un matin à 11h, là, je vais appeler pour laisser une annonce. On verra ce qu'il y a à vendre.
Et moi, le matin, 11h, une petite annonce. Alors, tu peux appeler pour les petites annonces.
Si ça se vend pas, ça va finir le premier mardi du mois.
Appelle demain. Demain, non, c'est pas moi, c'est Philippe Robichon. Demain, c'est Philippe. Et puis, le week-end, maintenant, on a Giovanni aussi, le matin, de 6h à 9h pour la matinale.
Oh là, je suis entre Neptune et Vénus, moi, entre 6h et 9h, là, c'est... Oh.
C'est tout. Ah, écoute, on sait jamais si t'as un jour, tu travailles plus tôt. Ok, non, Karim. Karim, ouais. Je t'embrasse, rentre bien.
Ouais, je rentre bien, mais juste.
Ta femme, elle t'attend là, hein. Dépêche-toi. Hein.
Je te taquine. Je suis pour madame. Il n'y a pas de souci.
Alors, dis-moi.
Je laisse le temps
oui.
Aux autres qui vont appeler parce que eux aussi.
Oui, il y a des appels, c'est vrai. C'est des appels. On va voir les personnes qui peut-être nous parlent de solitude, qui se sentent seules.
Je ne vais pas sur. Tu sais, dans l'univers ou là.
Eh bien, reste à l'écoute parce que là, tout de suite, on a. Justement des appels. On va voir si c'est de pour le thème. Je t'embrasse, Karim. Passe une bonne soirée. Rentre bien chez toi. À bientôt. 01 53 48 3000. Myriam nous appelle de Toulouse. On a juste après Fatima et Nadia. Bonsoir, Myriam.
Allô, bonsoir, Vanessa. Ça va?
Ça va et toi, Myriam? Tu vas bien?
Ouais, ça va. Merci. Super. Ouais, ça va. Je j'aime beaucoup le thème là. Franchement, plus ça me parle. Ça me parle, la solitude, et franchement, bon, c'est un peu long, mais je vais abréger un petit peu. Je me suis mariée super jeune, donc à 20 ans, j'ai eu mes deux garçons, je les ai élevés toutes seules parce que bon, voilà, c'était un peu compliqué.
Ah oui.
Et j'ai jamais refait ma vie, à croire que j'étais peut-être traumatisée, enfin peu importe, mais c'est vrai que je l'ai super mal vécu.
Oui.
Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais arrêter de me dire, est-ce que c'est normal? Parce qu'en vérité, c'est ce qui m'a tué et c'est ce qui tue beaucoup de gens, je crois, de dire que c'est pas normal d'être tout seul. C'est pas normal de faire ça. Et c'est pas normal de se marier jeune. C'est pas normal de pas porter le foulard. Et le mot normal, je me suis dit, je vais réfléchir. Attends, je vais réfléchir à ce mot normal. Est-ce que c'est ma normalité à moi? Donc, comme on est un petit peu plus ou moins, quelque part tous singuliers.
Oui.
Donc, moi,
exactement.
Je me suis rendu compte que c'était ma normalité d'être seul. Donc aujourd'hui, je me sens super heureuse. J'ai envie de ressembler à personne. Et donc si ça peut aider des gens qui se disent « ouais, c'est pas normal », c'est comme ça d'ailleurs qu'on rentre dans une dépression, en se disant « ouais, c'est pas normal, je suis toute seule » ou « je suis tout seul », « je vais faire mes courses tout seul », »,« je mange tout seul ».
Mais seul ou... Tu as des enfants?
Ouais, j'ai des enfants, ils ont fait leur vie.
D'accord.
Ils ont fait leur vie.
Donc tu vis seul.
Seul.
Tu as vécu longtemps en couple?
5 ans. Je me suis mariée à 20 ans, 25 ans divorcée. Et seule depuis. Ça veut dire même pas une rencontre.
Ça fait combien d'années que tu es seule? Tu dis que tu as des grands enfants?
Ben là, ça fait 20 ans.
20 ans seul? Jamais seul. En couple?
Jamais.
Ah ouais, c'est incroyable.
C'est incroyable. Hein.
Ah oui, c'est incroyable. Oui,
au début, j'en
ai 25 ans.
C'est pas possible.
25 ans, c'est
super jeune. Bon, en même temps, ça m'a rendu service. Moi, j'ai vécu en famille nombreuse, donc on sait ce que c'est que vivre avec du monde, quoi. La solitude, on la connaît pas. C'est impossible.
C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. quand on a vécu comme ça dans des grandes familles nombreuses comme chez nous, la famille, elle est plus que nombreuse parce que il y a tout le reste de la famille qui fait partie de la famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Voilà, parce que t'as les tantes, les oncles, les machins, tout ça, c'est la famille.
Ouais,
et parce que chez les Européens, quand ils parlent de famille, c'est papa, maman, frère et sœur. Mais voilà. Nous, la famille, c'est mon oncle, mon arrière-oncle, mon arrière-grand-oncle, ouais, Denia. Ah, Dacharaga, c'est la famille. Tu comprends? Alors, le jour où on est seul, qu'est-ce qu'on est bien? Oh, on apprécie, voilà. Les gens peuvent pas comprendre. On apprécie toujours.
C'est devenu un privilège pour moi. Je me suis rendu compte. Au début, je l'ai mal vécu, je vais dire franchement, parce que quand j'allais même à l'époque avec mes copines, ou à l'époque avec mon mari, quand je voyais quelqu'un au resto tout seul, je regarde mes screens tout seul. Aujourd'hui, je le fais le resto toute seule.
Bah ouais.
Et je l'apprécie. Je me fais mon ciné toute seule. Je l'apprécie.
Ouais,
et en plus, je me suis éloignée de toute la famille. Je me retrouve toute seule, mais vraiment toute seule. Mais je m'occupe. Ça veut dire que je sais comment gérer mon temps. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la normalité... C'est pour ça qu'en vérité, qu'est-ce qui fait péter les plombs aux gens? C'est de se dire, regarde, c'est pas normal, je suis toute seule. C'est pas normal, ça, c'est pas normal.
C'est ça.
Mais en vérité, c'est ta normalité. Et on a le droit d'être...
D'avoir une vie différente.
Ouais.
Voilà.
Ouais, différente.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est beau ce que tu dis parce que tu en parles d'une avec sérénité alors qu'il y a des personnes qui sont en couple et tu as des femmes qui justement ne tiennent pas le même discours et n'ont pas cette voix aussi sereine et positive qui vivent justement la vie de couple plutôt mal quoi. Alors donc c'est bien d'avoir aussi
excuse-moi je te coupe mais
et la normalité, tu as raison de dire la normalité n'existe pas.
La normalité n'existe pas, elle est singulière, elle est à toi. Est-ce que c'est normal pour toi? Moi je connais une nana, elle a été à la Mecque par exemple à l'époque où c'était ouvert là juste un petit peu avant le confinement. Elle est revenue, elle m'a dit "Ouais, j'ai fait un voyage spirituel, je me sens bien." Mais quand elle est revenue, j'ai trouvé ça magnifique, elle me racontait, je dis "Mais c'est beau, c'est..." Les gens, ils ont fait, tu te rends compte, t'apportes pas le foulard, elle a été à la même. Mais qu'est-ce que tu
c'est
penses?
C'est n'importe quoi.
De quoi je me mêle?
N'importe
c'est
quoi.
Un voyage spirituel, c'était à elle, ça lui appartient.
Oui, ça s'appelle un voyage spirituel, c'est pas un voyage vestimentaire.
Ouais, non, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal pour toi, c'est sa normalité.
C'est dingue. Tu vois, les gens ont besoin tout le temps de tu vois, dans le jugement. Tu penses différemment, pour eux, enfin, tu penses différemment d'eux, parce que la normalité, comme tu as dit, n'existe pas. Il y a plusieurs formes.
Pas.
C'est comme la pratique religieuse. Je disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de pratiquer. Il y a plusieurs façons de croire.
Ouais,
il y a
plus. Ce que t'as dit tout à l'heure, mais franchement, j'ai pensé à moi. Tu sais que bon, je vais choquer des gens, mais moi,
tu fais ce que tu veux. Et vraiment libre, vive la liberté.
Je prie à la manière que. C'est quoi prier? C'est communiquer avec, comme tu as dit tout à l'heure, l'univers, avec Dieu.
L'univers,
je sais communiquer avec. Moi, j'ai cette connexion. Est-ce que vous l'avez quand vous allez à la mosquée, courir, faire un... C'est plus du... Pour moi, après, je ne peux pas critiquer parce que, voilà, je sais comment ça se pratique certains. Je sais que, voilà, et je les regarde, je me dis, OK, moi, je suis là, je ne ressemble pas à tout le monde. Je ne suis peut-être pas dans leur normalité, mais je suis dans la mienne. J'ai la Bible à la maison, j'ai le Coran. Je vais des fois dans une cathédrale parce que j'adore ça. Ça peut choquer des gens, mais on me l'a déjà dit, c'est pas normal que t'as une Bible chez toi.
C'est incroyable.
Pourquoi c'est pas normal?
C'est
là, incroyable. Moi, c'est mon normal. Là. Ouais, ma normalité, elle est comme ça. Donc,
mais il faut, tu sais, les gens, il faut les habituer à respecter ou pas. S'ils respectent pas, tant pis pour eux. Mais il faut les choquer quelque part. Parce que pourquoi? Quand je dis les choquer, dans le sens où les sortir de leur carcan. Ils sont dans un. Si tu veux, ils sont dans leur bulle, c'est comme l'histoire, je sais pas si tu connais l'allégorie de la caverne de Platon.
Non.
Bah, il faut que tu regardes. Tiens, pendant la pause, tu regardes, je te reprends juste après. L'allégorie de la caverne de Platon, et tu vas comprendre beaucoup de choses. Il faut qu'ils sortent de là-dedans. Parce qu'ils prennent des ombres pour vérité, alors que non. Oui, tu peux avoir chez toi une Bible. Comme moi, j'ai chez moi la Sainte Vierge, qui tient son petit Jésus dans les bras, je l'ai chez moi. J'ai également, comment on appelle ça? J'ai plein de Bouddhas. Alors ça, mes amis m'adorent parce qu'ils m'apportent des Bouddhas. Ils savent que j'aime Bouddha, ils me ramènent des Bouddhas. Et mes amis sont, alors j'ai de tout, hein. La dernière fois, j'ai une amie, elle est de confession juive. Elle pratique, hein. Elle est juive, elle pratique, hein. Elle fait, Shabbat et tout, hein. Eh ben, elle m'a ramené une tête de Bouddha où on peut mettre une bougie au-dessus. Alors que c'est interdit chez eux. Elle me dit, chez nous, c'est interdit. Et je l'aurais pas montré à ma famille, mais je te ramène parce que toi, je sais que, voilà, tu aimes, etc. Et je crois comme toi. Et je lui ai appris à allumer des bougies et je lui ai fait comprendre que c'était que la spiritualité, que Bouddha, c'est juste une forme de philosophie spirituelle, etc. Donc la fille, tu vois, elle voit les choses un peu différemment. Et puis voilà. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Enfin, moi, j'ai tout ça chez moi. J'ai tout ça. Et j'ai assisté à une bat mitzvah une fois. Une bat mitzvah, c'est la communion des filles chez les juifs. Parce qu'il y a la bar mitzvah pour les garçons et bat mitzvah. Donc, on m'avait invité. Et puis, quand tu pars, on t'offre, tu sais, comme chez nous, on offre des gâteaux, des machins, des dragées. Là, avec des dragées et tout, on t'offre dans un petit sac comme ça en tissu brillant là et enfin voilà et bien à l'intérieur il y a une Torah voilà une Torah voilà un livre une petite Bible Torah avec les règles judaïques juives etc dedans. Alors ils offrent ça à tout le monde, ça porte bonheur. Et ben moi oui ça porte bonheur, je l'ai chez moi, il est tout le temps dans son enveloppe et tout fermé dans un placard et tout, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai ça comme tu dis, la Bible et tout, il faut tout avoir. Et les Corans, j'en ai bien sûr, j'en ai voilà voilà. Alors, 01 53 48 3000, on va marquer une courte pause. Alors, ma petite Myriam, tu ne pars pas parce qu'on n'a pas terminé avec toi. On a Nadia, on a Fatima, on a Hamid de Saint-Étienne. On revient juste après cette petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant.
Et on reprend avec, avec Myriam.
Allô, oui.
Oui, alors. Là. Alors, tu disais, je te laisse continuer.
Ouais, bah du coup, bah je sais plus où j'en étais. Je ouais, on parlait de normalité en fait. Ouais, je voulais passer le message pour ceux qui dépriment parce qu'ils sont seuls. Tout ça, moi je l'ai connu cette déprime. J'étais voir un psy, machin, les antidépresseurs, 10 kilos, 15 kilos. Il fallait retour faire à zéro. Et puis je me suis rendu compte que bah non, en fait, j'ai pas envie de ressembler. En fait, la normalité c'est quoi? Parce que je reviens encore sur ce mot-là parce
oui,
que c'est hyper
oui,
important
oui.
pour moi. C'est ce qui m'a sauvé de ce gouffre-là. Mmh. Je me suis dit, c'est quoi la normalité? Pourquoi? En fait, c'était en se comparant aux autres. Voilà. En se disant, ouais, mais regarde, elle a son mari, moi, je sais pas. C'est pas de la jalousie ou de l'envie ou quoi. C'était de rentrer dans cette image de mm-hmm. d'avoir un mari, d'avoir une fille, un garçon. J'ai eu deux garçons.
Ah, ben bah oui. Hein,
la maison, le chien, le truc, le travail de fou, le machin. Non, en fait, non. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai fait des études que j'ai lâché l'affaire parce que c'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai préféré faire un métier qui choquait plein de gens. Mais tu te rends compte,
attends, ah bon
une fille, c'est t'as pas normal.
T'as fait quoi?
Parce que je voulais faire ébéniste. J'aime le bois.
T'as fait ébéniste, oh, c'est génial.
Ouais,
l'odeur du bois, de la cire.
J'avais envie de faire ça. J'avais envie de comme je suis un petit peu manuel, j'aime faire ça.
C'est bien.
On attend, c'est pas un truc de garçon, c'est pas
incroyable.
Un truc de fille, c'est un truc de
incroyable.
Garçon.
Incroyable, ouais.
Et puis un jour, je me suis rendu compte, j'ai dit non, c'est pas possible. Bon, c'est récent, hein, ça fait 5 ans. Hein, mmh. Franchement, pour sortir de la tête de l'eau, faut se rendre compte que si on n'est pas, si on reflète pas l'image de ses parents, de son entourage ou de la société, des fois, hein, mmh. Et ben, ça nous rend mal.
C'est ça.
Alors les gens, comment ils se rendent mal? Ben, ils font le bilan de leur vie. Regarde, pour certaines, les pauvres, bah, franchement, les pauvres ou pas les pauvres, d'ailleurs. Moi, je leur... voilà,
mais pas ça, c'est... Mariés, oui. Et ça, tu vois, quand tu parles de normalité, moi, j'aime bien c'est bien, ouais. Parce que, tu vois, on discute, on parle depuis tout à l'heure. Avec ouais. Jamel, on est parti sur d'autres sujets, parce que de la discussion, comme on dit, déjà, il y a la lumière, et de fil en aiguille, on aboutit à... Tu vois, on arrive à parler d'autre chose, finalement, mais qui est important. Et là, ouais. Avec toi, ben, tu parles de normalité. Moi, j'apprécie énormément ton discours, parce que... Le problème, il est là. Et ça, c'est valable pour toutes les cultures, encore une fois. Parce que, par ouais. exemple, regarde, aujourd'hui, à un autre niveau, hein, aujourd'hui, tu allumes ta télévision, hein, à n'importe quel moment, on parle beaucoup dans les journaux télévisés, parce qu'il y a c'est l'actualité, donc la campagne présidentielle hein, qui ouais. se prépare, on est en plein dedans. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, encore une fois, dans un autre registre, une autre forme de normalité, parce que tout le monde parle de normalité. Tout le monde. Ouais. Par exemple, ouais, tout ce que tu peux faire, c'est pas normal. On te sort souvent d'ailleurs, mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Dites-moi. Ce qui n'est pas normal, c'est de faire du mal à son prochain. Ça, oui. De tuer, de faire du mal à son prochain, c'est pas normal pour moi. Parce que c'est inhumain, voilà. Parce que ça fait mal et qu'on ne doit pas faire souffrir autrui. Mais pour le reste, tout ce qu'on peut faire pour soi, qui nous fait du bien, c'est normal. Eh bien, aujourd'hui, quand tu allumes ta télé, tu entends quoi? Tu entends, ah, mais t'as vu comment ils sont? Ah oui, parce que l'islam n'a pas sa place. Les musulmans n'ont pas leur place. Tu vois, tu les entends, ils n'ont pas leur place. On entend, maghrébins, musulmans, arabes, machin, etc., n'ont pas leur place. Parce que tu entends derrière ces propos la normalité, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'entrent pas dans le moule. Alors, c'est quoi le moule? Je comprends pas, faut manger de la choucroute tous les jours pour être dans le moule, pour faire plaisir à je sais pas qui. Non, et puis il faut changer son prénom. C'est un peu n'importe quoi, quoi. Non.
Ouais, mais en même temps, si on avait porté le prénom, des prénoms, comme il prétend, Zemmour, on
pense. Oui. Ah bah oui.
Il aurait dit autre chose, il aurait dit oui, en plus ils nous volent nos prénoms. Donc
c'est dénaturer une personne, parce que bon.
Ouais.
La culture, si on met de côté tout ce qui est tabou, tout ce qu'on est en train de dénoncer ce soir qui fait plus de tort qu'autre chose et qui malheureusement est la cause de beaucoup de malheurs, les tabous. Chez nous, tout à l'heure, je citais cet exemple de cette jeune fille et d'autres. Aujourd'hui, mariage forcé. Il faut voir ce qui se passe au pays. Ah oui, et surtout dans les petits villages là-bas, chez nous, c'est terrible ce qu'elles vivent les femmes, la condition des femmes, c'est terrible. Le poids de la famille, du mari, la belle famille, c'est qu'elles n'ont pas de vie. Elles ne vivent pas. Alors ça, il faut dénoncer. Par contre, il y a un côté de la culture qui est juste magnifique et que chacun préserve sa culture et c'est tant mieux. Mais que d'autres n'acceptent pas. C'est-à-dire que partout, eh bien, on va exiger de l'autre de rentrer dans le moule. On veut faire une société uniforme. Et ça, c'est terrible.
Ouais. Ah ouais,
c'est
non,
terrible. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est être maghrébin ou être musulman, c'est sortir de la normalité. Pratiquer une autre culture, une autre religion, eh bien, ça fait de nous ou de toi ou de moi ou d'autres des êtres qui ne sont pas dans la normalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rejeter tout ce qu'on est. Pour plaire. Par exemple, ce qui choque certains, écoute-moi bien.
Ouais.
Ce qui choque, moi, ça me révulse. Quand il y a, par exemple, des matchs de foot, les jeunes, ils aiment bien. Il y a des matchs de foot, ça représente le pays d'origine de leurs parents, souvent l'Algérie, parce que les jeunes Algériens, même qui n'ont pas connu le pays, ils sont fiers de du pays d'origine. Et il faut remonter à l'histoire pour savoir pourquoi ils sont fiers, parce que ça relève carrément, c'est d'ordre culturel, c'est pas culturel, c'est plutôt psychologique, puis il y a une histoire derrière ça. Il y a toutes des générations de souffrances, de colonialisme, etc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes, eh bien, connaissent l'histoire de leurs ancêtres et ils revendiquent quelque part un petit peu, c'est gentiment fait. Ils dérangent personne. Quand il y a eu le match d'Algérie qui sont sortis avec les drapeaux, je veux dire, il n'y a pas eu de casse, ces drapeaux. On ne supporte pas de voir des drapeaux. Ils sont arrivés à dire, oui, quand il y a des mariages, en sortant de la mairie, on ne veut pas voir de drapeaux étrangers. Mais en vérité, quand tu entends drapeaux étrangers, ça veut dire on ne veut pas voir de drapeaux algériens. Parce que tu ne vas pas me dire que s'il y a des Espagnols qui se marient avec un drapeau espagnol ou portugais ou italien, ça dérange personne en vérité. On voit un drapeau algérien, là, sacrilège. Tu comprends? Cacher ce drapeau que je ne saurais voir. Le drapeau algérien dérange énormément. Je ne vois pas en quoi, par exemple, je ne sais pas, il y en a qui, même des gens de chez nous, de la culture, qui disent, oui, c'est vrai quand même, le drapeau, t'entends, mais non! Ça dérange personne. Je sais pas, sur une voiture, un drapeau algérien, le jour d'un mariage ou d'un match de foot, ça dérange personne. Ça devrait déranger personne.
Maghreb, ça les dérange.
Le Maghreb, mais l'Algérie, L'Algérie, attention, plus l'Algérie, que le reste. Moi, je te le dis. Parce que le drapeau algérien dérange plus que les autres drapeaux. Crois-moi.
C'est vrai.
Vraiment. C'est ce qu'on entend. On le voit et on l'entend. On l'entend souvent. Donc, c'est-à-dire, ça sort de la normalité. Il faut que le drapeau soit européanisé. C'est-à-dire que ce drapeau, il faudrait le transformer. Il faut enlever le croissant, il faut enlever l'étoile, le vert et le blanc, le rouge, ça va pas. Le blanc, on le garde, bon, à la limite, peut-être le rouge, parce que dans le drapeau français, il y a le rouge et le blanc. Mais on essaie un peu de le transformer. Peut-être le vert, il faut le faire plus pâle. Voilà. Un vert très, 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 très pâle.
Je te jure.
Non, mais c'est pas possible.
Franchement,
et en parlant d'étoiles, tiens, il y a une étoile dans le drapeau algérien. Mais le drapeau européen, il y en a combien? 14 ou après? Là, je sais plus combien. J'ai su, mais j'ai oublié. Il y a plusieurs étoiles.
Ouais.
Ah ben, tout le monde trouve ça bien, drapeau européen plein d'étoiles, tout le monde trouve... Moi, je trouve ça normal, bien. Moi, je trouve qu'il est beau. Tous les drapeaux sont beaux pour moi. Mais voilà, il y a plusieurs drapeaux. Mais il faudrait qu'on mette plein d'étoiles, peut-être. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, voilà.
Non, il faudrait justement pour eux...
Et changer le nom de l'Algérie, peut-être aussi.
Ouais.
Ah, je t'assure. Là, non, mais parce qu'il faut taper sur tout le monde. Parce que... tout à l'heure, on parlait de notre culture où il y a des traditions qui sont à bannir parce que c'est il y a trop de tabous, on fait trop de mal. Voilà, on fait trop de mal. Hein. Mais là, ici en France, il y a aussi des choses aberrantes. Hein. Il y a des choses qui sont ineptes. Tu vois?
Ouais.
Voilà. Ouais, il y a des choses pareilles. Quand on veut mettre tout le monde, voilà, ça se prend pour je sais pas quoi. Ça te lance des phrases sorties du dictionnaire. Ça te fait des discours de fleuve. Mais pour aboutir à casser des gens et à briser des gens en disant oui les Maghrébins donc ils n'arrivent pas à s'assimiler mais ça veut dire quoi ce mot enfin moi ce mot il ne veut rien dire assimiler comprends pas
ce genre de discours que j'ai toujours entendu toute ma vie en vrai hein, ce genre de discours hein, dans la politique et tout hein, c'est pas d'aujourd'hui
tu l'entends tout le temps
je me dis mais et après bon vas-y. Ça fait je sais pas combien de décennies ou là même peut-être même plus que ça que voilà les Maghrébins on est toujours là
hein. Ah bah oui.
Il est où le problème?
Et ça sera toujours comme ça pendant un temps à chaque fois que sur certains événements comme la campagne au lieu de faire une campagne sur des sujets utiles à toute la société des sujets sérieux comme il se faisait dans le temps. Hein, pour qu'on donne vraiment de l'importance à la politique et ce côté sérieux, tu vois, qu'on l'écoute avec les bonnes oreilles. Tout d'abord, dans les programmes, il y a du chômage, donc qu'on trouve les solutions. Les hôpitaux vont mal, il manque des lits, etc. Qu'on trouve les solutions. Les écoles, les SDF dans la rue, c'est pas normal. Les écoles, il y a des élèves quand même qui se suicident. Il y a encore une gamine cette semaine qui s'est suicidée. Ça revient régulièrement. Donc il faut se pencher de ce côté. Je sais pas, voir comment sensibiliser les jeunes, faire attention, voir leur comportement, leur dire un travail sur le harcèlement. Voilà des sujets utiles à la société pour la sérénité.
Et
non, on mène les Maghrébins, l'islam, les musulmans. Voilà le programme. Électoral là pour les prochaines élections présidentielles en France, tout est basé sur l'immigration. Makach wahed yhel, il ouvre sa bouche sans parler d'immigration. Et c'est à celui qui fait mieux que l'autre, hein.
Il m'agace.
C'est à celui qui fait mieux que l'autre.
Pire que l'autre. Tu te dis, ouais, je sais.
Bah, il faut voter, justement. Justement, il faut voter.
Mais ouais, tu te demandes à qui.
Moi, j'ai ma petite idée, mais bon, il faut voter. Voilà, tout simplement.
Ouais.
Ok, Myriam.
Bah, voilà, la parenthèse. Si ça peut, franchement, aider certaines personnes. Juste ça, pour dire comment je suis sortie de la tête de l'eau. Parce que c'est dur, la solitude. Je comprends plein de gens. Ne broyez pas du noir, ne regrettez rien. Franchement, c'est vrai. Moi, c'est ce qui m'a fait, qui m'a rendu malade, c'est ça, de regretter de faire le bilan de ma vie, de me dire, j'ai pris mon tableau, entre guillemets, mon tableau de vie, noir et blanc, que j'ai moi assombri, inconsciemment. J'ai dit non, je vais lui en mettre des, c'est une métaphore, hein. J'ai mis de la couleur à ma vie, quoi.
Non, c'est beau, ça.
Des petits trucs. Échelle, on la monte pas d'un coup comme ça, c'est step by step, comme dirait l'anglais.
Bon,
marche tout doucement.
Ouais.
Dès qu'on fait un truc dans la journée, si ça peut aider des gens, parce que je sais à quel, franchement, très sincèrement, c'est super dur. La solitude, quand on, on peut bien la vivre. La preuve que je la vis, franchement, super bien. D'ailleurs, demain, je vais aller faire mon petit tour de marche. Voilà.
Mais tu n'es pas tout le temps seule, rassure-moi. Il y a des moments. Tu as une vie sociale.
Je vais aller voir ma famille.
Voilà.
Je suis à plusieurs heures. Je vais voir mes enfants.
Tu as des amis, quand même, un petit peu?
Comment?
Tu as des amis?
Ouais, après on fait le tri à 40
ans. Oui, bien sûr. On n'est pas au collège, quoi.
Ouais, voilà. Après on fait le tri, on se demande. Moi j'aime les gens un peu comme moi, sans jugement, sans dire pourquoi tu fais ça comme ça, c'est pas normal, pourquoi t'es tout. J'aime les gens comme moi. J'ai déjà eu une copine prostituée, je l'ai jamais jugée de ma vie.
On n'a pas jugé les gens.
J'aime bien ce mot-là. J'avais une copine pareille, elle était tous les vendredis à la mosquée à courir et tout. Je trouve ça génial. Je n'ai pas comme elle, mais j'ai jamais.
On n'a pas le droit de juger. Voilà, je suis d'accord.
Exactement. Et bon, du coup, la fille qui était prostituée à l'époque est devenue super pieuse aujourd'hui. Machallah, c'est incroyable, mais vrai, comme quoi, il ne faut jamais juger la
preuve. Mais oui, bien sûr.
Elle met des claques à tout le monde, franchement, c'est incroyable.
Puis on ne connaît pas la vie et l'histoire des gens aussi, donc on n'a pas à juger.
Il ne faut pas juger, surtout qu'il ne faut pas se juger soi-même en mauvais. Quand on fait le bilan de sa vie, même si on a eu des, il fallait les vivre, c'est comme
ça, les accepter, se pardonner,
j'ai eu des décès, des divorces, des pas d'enfants ou des enfants peu importe, un licenciement, un homme qui l'a battu, peu importe les la vie qu'elle a traversée, la personne, acceptez-la en disant c'est passé, déjà comme on dirait les fêtes maîtres, et ça faisait partie de cette histoire où je le dis tout le temps à tout le monde, que ce soit mes enfants ou à mes proches, on est tous. Il était une fois Myriam, il était une fois Vanessa. C'est notre vie, elle est comme ça.
Exactement.
C'est notre bouquin.
C'est bien dit, ma Myriam, j'adore. Je t'embrasse très très fort.
Moi aussi, Vanessa, à bientôt.
À bientôt. Bisous, reviens vite. Bisous. 01 53 48 3000. Et tout de suite, on a notre... Alors, on a Nadia qui nous appelle de Paris. On a Fatima, la philosophe, juste après. Et Hamid de Saint-Étienne. Bonsoir, Nadia. De Paris.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, ma chérie. Bienvenue, Nadia. Merci d'avoir été patiente. Tu es patiente. C'est bien.
Ah oui, non. Quand ça coupe, ça coupe. C'est pas de ma faute.
Oui,
non,
je sais, ma chérie. Merci.
Non, pas de problème.
Alors.
Mais c'est très intéressant. Toutes les personnes qui sont passées, elles ont dit des choses très, très intéressantes. Moi, je voulais dire que, en fait, j'ai ni choisi la solitude et je la subis pas du tout. Mais par contre, je la ressens. Ouais, c'est un ressenti que j'ai. Par exemple, que je sois avec ma sœur ou avec des connaissances ou avec, des collègues de travail ou peu importe, avec des personnes. Et ben, au bout d'un moment, tout le monde, les gens vont discuter ou bien ils vont rire. Et ben, à un moment, je vais me rendre compte. Je regarde tout le monde, j'observe tout le monde, je les écoute et je me dis est-ce qu'ils je suis là et eux c'est eux et moi je suis moi. En fait je suis là et il y a tout ce monde là et depuis que je suis petite c'est comme ça et je me dis c'est comme si c'était une pièce de théâtre et je suis en train de regarder, j'observe. C'est vraiment un truc
c'est bien bizarre, ça c'est non c'est bien au contraire.
Tu es
une petite fille curieuse et intelligente.
Mais moi, ça me paraît un peu... mais je me dis, je suis toute seule, quoi, en fait. Il y a moi et cette personne-là, par exemple, avec qui je vais discuter ou on va échanger, etc. Mais je me dis, moi, je suis là. Je sais pas comment dire ça. Je sens une solitude en moi. Je sens que je suis seule.
Tu te sens seule parce que pas comprise?
Non, parce que quand je discute avec toi ou avec d'autres personnes, on échange et je sais qu'on comprend.
Là, oui. Mais quand tu te sens seule, tu discutes avec une personne, une tierce personne, et que tu sens cette solitude, c'est parce que tu te sens incomprise peut-être par cette personne.
Non, parce que quand je suis avec des gens avec qui on va discuter normalement de tout, de rien, ou bien où on va se mettre à rire, à déconner un petit peu. À un bout d'un moment, je vais ressentir et penser, je suis là, ils sont là, est-ce qu'ils sont conscients? Je suis là, quoi, je sais que j'existe. Je suis seule, quoi. Eux, ils sont tous là, Et puis, au bout d'un moment, et pour arrêter tout ça, je me dis, allez, 3, 2, 1, 0, et je me lance dans la conversation avec tout le monde, ou ben, on continue le truc pour sortir de ça.
Ça, c'est une, c'est signe de protection. Tu m'entends, Nadia?
Oui.
C'est signe de protection. C'est, voilà, parce que quand tu me parles, j'ai des idées comme ça, des images qui défilent. Et que je me remémore ce que tu m'avais raconté les premières fois, hein, ton histoire, hein, ça c'est bon, on va pas répéter tout ça. Eh bien, si tu veux, c'est une forme de protection. Voilà, tu es avec du monde, mais seul en même temps. Tu comprends?
Oui, voilà.
Donc tu es seul, pourquoi? Parce que tu rentres dans ta bulle, parce que quand tu étais avec du monde, bon, c'est la famille, hein. Oui. Tu étais dans un lieu insécurisé parce que le foyer familial devrait être oui. le lieu le plus sécurisé pour un enfant.
Ah ouais.
Et à partir du moment où l'enfant que tu as été et d'autres, eh bien, ne se sentent pas en sécurité dans ce lieu-là, il n'y a pas d'autres, eh bien, plus tard, parce qu'on ne, on a du mal à réparer son enfance. On ne sort pas indemne de son enfance. Et donc, ce qui fait que si tu veux, par effet de instinct de survie, j'ai envie de dire, de protection, quand tu es avec du monde, c'est pas les gens qui sont là autour de toi, c'est pas eux, oui. ça n'a rien à voir avec eux, mais c'est Exactement. Ton passé qui ressurgit, la petite fille intérieure qui sommeille en toi, qui se réveille et qui met autour de toi des barrières pour te protéger. Voilà, comme si elle te mettait dans une bulle, voilà, tu es seule, parce que quand tu étais jeune, tout ce que tu as subi, tu rentrais dans une bulle pour ne pas avoir subir, tu vois, même si tout le monde était autour de toi, mais quelque part, voilà, c'était une forme de protection. C'est comme si tu voulais être hors du temps, hors de ce contexte, et ça reste plus tard. C'est ce qui se passe.
Oui, mais c'est, oui, je l'entends, mais même si quand, et ça m'arrive plusieurs fois dans la journée, ça peut m'arriver 4, 5, 6 fois dans la journée.
Oui, oui, oui. C'est un besoin, cette petite fille intérieure qui sommeille, l'enfant intérieur, on appelle ça. Eh bien.
Oui. Avec une personne étrangère dans les transports en commun, en faisant le chemin, le trajet, etc. Je lui dis, et à un moment donné, voilà, on a l'impression, c'est comme si que je me déconnecte et je prends conscience et je me dis, oui, mais moi, je suis moi, elle, voilà, et pourtant, c'est intéressant de qu'on discute.
Oui, parce que c'est pas la personne du moment présent qui est le sujet. Cette oui. personne, eh bien, elle est là, mais c'est une personne qui ne si tu veux, ne te rappelle rien. C'est pas la personne qui est importante dans l'histoire. C'est pas le sujet. C'est si tu veux, quand tu es en public ou tu es avec du monde, peu importe qui, hein, eh bien, ça te remonte à ton histoire, à cette petite fille qui était en grande souffrance, qui était insécurisée, et donc, qui se disait à l'époque, eux, c'est eux. Moi, c'est moi. Et intérieurement, oui. inconsciemment, faut que je me protège parce que eux ne me protégeront pas. Donc, c'est à moi seul de me protéger. C'est ce que se disait cette petite fille. Donc, aujourd'hui, oui. c'est, si tu veux, c'est, voilà, c'est ce qui se passe. Quelque part. Oui, ça remonte à la surface. Malgré toi, hein, malgré toi, c'est inconscient, hein, c'est
inconscient. Oui, parce que je suis pas en danger, je suis bien entourée.
Non, non. Mais la petite fille, elle est toujours en danger. La petite fille qui est intérieure, l'enfant intérieur. Il se sent, il y a dès qu'il est avec des personnes autour de lui, peu importe qui, hein, même si des personnes gentilles. Voilà, dès qu'il y a une deuxième personne, il se sent insécurisé. Parce que la petite fille, elle se souvient, la mémoire revient. Et cette mémoire, elle ne nous quitte pas. Donc, ce qui fait que cette petite fille, eh bien, se sent insécurisée. C'est pas toi, c'est malgré toi. L'enfant intérieur oui. se réveille quand tu es avec d'autres personnes autour de toi. Parce que tu te sens, elle se sent en danger. C'est comme ça. Parce que c'est pas réparé. C'est dur de réparer son enfance. D'ailleurs, on va voir des psys, etc. Des gens vont voir des psys, c'est très bien, ça peut aider vraiment. Moi, je conseille toujours. Mais ça répare pas 100%, on va pas se leurrer. Ça répare pas 100%. Une personne, par exemple, qui perd une jambe, eh bien, on va lui mettre une jambe artificielle. Voilà, le nom m'échappe. Donc voilà, qui sont très bien. Il y a même des athlètes hein, qui font vraiment des performances avec des jambes artificielles. Eh bien. Alors, je sais pas, je vais chercher le nom comme ça. Au moins, je dirais le bon terme.
Une jambe en bois,
voilà.
Une jambe
eh bien, oui, une prothèse, voilà, ça me revient, prothèse. Une prothèse. Eh bien, avec ces prothèses, il y a des athlètes qui font des choses handisport, ils font des choses incroyables. Ah, oui. Donc aujourd'hui, on fait très très bien grâce à la technologie, etc. Bravo. Mais ça ne reste qu'un élément extérieur, tu comprends? Donc on répare pas à 100%. Tu comprends? Parce que l'athlète ou la personne qui a cette prothèse, le soir avant de dormir, elle la retire, elle ne lui a, c'est pas sûr. Sa jambe, elle lui appartient, elle tient pas, tu vois. Mais tant mieux, ouais, qu'elle l'ait, parce que grâce à ça, elle vit comme les autres. Ça, c'est formidable. Mais quand elle la retire, c'est pas la sienne. Alors, donc, c'est exactement la même chose. Enfin, un peu de choses, pour donner une métaphore, pour ce que tu dis, ce que je te disais. On se répare de son enfance, quelque part, grâce à des psychothérapies, voilà, il y en a qui font ça très bien, des bons psychologues, des psychiatres, c'est très très bien. Mais ça ne répare pas à 100%. C'est pas vrai. Parce que quand on se retrouve seul, c'est comme la personne qui retire sa prothèse, quand on se retrouve seul, eh bien, on est face à son histoire et à son passé, malgré tout. Parce que un psychologue, le meilleur des psychologues ou des psychiatres, je veux dire, c'est pas des dieux, je veux dire, c'est pas des personnes, non, c'est pas des magiciens. Ils peuvent pas tout réparer, c'est pas possible. Heureusement, ils réparent le plus gros, ils sauvent des vies, mais ils peuvent pas tout réparer. Parce que t'as des douleurs profondes qui ont du mal, vraiment, à trouver, des remèdes.
Moi, j'ai fait un travail là-dessus, hein.
Tu as été vraiment, tu as fait une bonne résilience.
Je sais que j'ai fait une bonne résilience. Bon, c'est oublié, c'est mis de côté, mais.
Non, c'est pas oublié. C'est pas oublié, ouais, mais. C'est en grande partie réparé, tu le dois à toi-même. Parce que c'est soi. Tu sais, la réparation, on la doit à soi. Même si d'autres t'ont aidé, mais c'est toi qui as été cherché. Tu comprends? Il y en a qui ont des personnes autour d'eux pour les aider, mais qui refusent, la main tendue. Mais toi, tu as été cherché. Tu le dois à toi-même. Il y avait des forces, Antoine, Nadia. Tu es une femme vraiment exceptionnelle, hein. Tu as été vraiment, tu t'es battue parce que de là où tu viens, c'est vraiment, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et tu t'es battue, tu as fait une belle résilience à toi toute seule, sans l'aide de personne. Tu étais cette petite fille qui s'est retrouvée dans une arène, tu sais, comme le taureau avec ses fous furieux qui sont autour de lui, voilà, pour mettre fin à sa vie. Et toi, tu t'en es sortie grâce à toi-même. Bravo, vraiment.
Merci beaucoup. Donc voilà ce que je voulais dire de la solitude. En fait, il y a aussi le ressenti. On la subit pas. Moi, personnellement, voilà, je ne la subis pas et je ne l'ai pas choisie. Mais
tu la refuses pas.
Je la ressens.
Voilà, tu la ressens. Ma petite Nadia, oui.
Oui, je voulais laisser la place pour.
D'accord, Fatima. On a Fatima là tout de suite. Ok.
Super.
Je t'embrasse fort, Nadia. Merci d'être passée ce soir. Gros bisous, ma chérie. À bientôt. Merci. Au revoir, Nadia. Adorable, Nadia. Fatima, notre philosophe de Paris. Bonsoir, Fatima.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, bienvenue, Fatima.
Je vous remercie. Ils sont tous pertinents dans leur avis, les auditeurs, sur la solitude.
Oui, formidable.
Hein, tous, Vanessa. Et j'ai aimé ce qu'elle vient de dire, Nadia, quand elle dit la solitude. Comment dire, elle dit qu'elle la ressent pas.
Oui.
C'est plutôt le contraire. Elle dit que elle l'a pas choisie.
Elle l'a pas choisie.
Elle l'a pas subie, mais elle la ressent.
Elle la ressent. Voilà, c'est bien décrit. Oui. Hein, tu vois, c'est quand même. Il y a beaucoup de subtilité. Hein, il faut vraiment aller chercher loin. Hein, vraiment.
Vous savez, Vanessa, oui. Vous avez donné d'ailleurs la réponse. C'est bien. Je crois qu'elle est d'accord. Nadia, quand vous lui avez dit, si vous ressentez la solitude, c'est une forme de protection.
Oui. Oui.
C'est une bonne réponse. Par contre, la solitude, quand on dit elle m'a pas été imposée, ce n'est plus de la solitude, c'est de l'isolement, ça.
Oui.
C'est vrai.
L'isolement, le retrait, on va dire. Oui. C'est le retrait.
Parce que quand l'isolement est imposé, c'est pas juste, il est négatif et c'est pas bon. Et ce n'est plus de la solitude.
C'est pas faux. C'est vrai.
Oui.
Il y a une nuance là, ouais.
Pour, pour, pour la solitude, pour moi, elle a deux sens. La première, quand elle est négative, c'est la coupure avec le monde.
Mmh.
Ça, ce n'est pas bon. C'est le repli sur soi.
Oui.
Oui, je prends juste un exemple, Vanessa.
Oui.
Quand on entend des gens qui disent « Ah, moi, je n'ai plus confiance en les politiques, je ne vote pas.
Mmh. »
Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la solitude, Vanessa. C'est pas qu'on n'a pas confiance en les politiques, c'est qu'on n'a plus confiance en soi, Vanessa, et qu'on se replie.
Non, moi je suis pas d'accord. Parce que je comprends. Moi je vote.
Oui,
oui, non,
et
non, non.
La société, car il faut
oui,
voter.
Fatima. Non, c'est pas il faut. Parce que ça, quand on dit il faut, c'est dire qu'on a qu'on impose aux autres. Voilà.
Non,
moi je vote. J'ai des personnes autour de moi qui ne votent pas. Bon, mais je respecte. Hein. On discute là-dessus.
Mais c'est pas bon. C'est des
non. Mais oui, mais chacun a ses raisons. Tu vois. Donc, je ne suis pas dans le jugement. Par exemple, moi, je me suis fait vacciner.
Ah,
je me suis fait
plus.
Vacciner, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le vaccin, il est important pour moi. J'ai des personnes que je connais qui sont contre. Mais je ne vais pas, si tu veux dire, je ne vais pas juger leur refus. C'est leur choix que je respecte. Et que ni moi, ni eux n'avons entièrement raison. C'est pas qui a raison. Donc, le fait de voter, c'est un acte de citoyen, on le sait. Moi, c'est comme ça que je vois. D'autres personnes vont me dire autre chose.
Mais
Fatima, je comprends. Mais il y a des personnes qui vont me tenir un autre discours. C'est un acte citoyen, et d'autres personnes me disent.
La confiance, c'est quand on est dans des institutions.
Mais ça n'a rien à voir avec la. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la solitude, ma chérie.
Le vote doit être un devoir.
Non.
Sinon, on va avoir l'extrême droite. Quoi.
Non. Attends. Moi, je suis pour voter. Moi, tu sais comment. Je suis pour le vote.
Nous avons des opinions.
Mais je reste. Voilà. Mais je ne peux pas juger des personnes qui ont une opinion différente de la mienne. Je ne peux pas les juger et dire que c'est mal ce qu'elles font. C'est pas possible. Par contre, moi, oui, je vote, mais je sensibilise autour de moi, hein, mes proches, mes amis. Je dis non, c'est bien, faut voter, etc. Oui.
Je ne porte pas un jugement sur les personnes qui ne votent pas. Ça les regarde. Mais je dis que c'est une démission, Vanessa.
Oui, tu le vois comme ça. Moi, j'entends ce que tu dis. Hein, j'entends. Hein.
Oui, et je n'ai plus un tracteur. C'est ce qu'on appelle de la solitude. Vanessa, c'est être dans une île tout seul. Non?
Tu les vois comme ça, toi?
Sans porter de jugement de valeur.
Non, j'entends bien. Mais tu les vois tout seul. C'est l'image que ça te donne, quoi.
Ah non, c'est pas l'image que ça
donne ces personnes.
C'est la réalité. Car on est dans le monde, Vanessa. On doit tous voter. D'ailleurs, ça doit être une obligation.
Ouh là là.
Oui.
On peut pas obliger les gens à voter. On devrait voter,
si,
mais bon.
Ça devrait être une obligation,
ah bon,
Vanessa, pour tout le monde. Sinon, vous voyez le taux d'abstention, le vote blanc, tout ça.
Bah oui, mais enfin, on vit en démocratie, on peut pas.
Et c'est très dangereux, Vanessa.
Mais on peut pas obliger les gens, Fatima, parce que quand on dit on devrait.
Ça doit être le vote, je parle du vote.
Oui, oui, du vote, hein, oui, je sais bien, mais on peut pas. Moi, je suis contre le fait qu'on oblige les gens. Oui, vas-y, dis-moi.
Avec tout le respect que je vous dois.
Oui,
par contre,
soucis.
Ça, c'est le côté négatif.
Oui, vas-y, rapidement.
De la solitude dont je parle. C'est le repli du soi,
se couper
des autres, quoi.
Oui. Oui, parce qu'il faut, justement, c'est dommage qu'on n'a pas abordé.
Il y a quand même une solitude qui a sa condition positive, Vanessa. Je parle, par exemple, de tous les sages qui sont dans la solitude, qui s'isolent. Confucius, Lao Tzu.
Ah, ça, c'est des retraites, c'est autre chose. Mais ils ne sont pas vraiment seuls, puisque c'est justement, ils sont. Leur nom ne serait pas connu à nos jours leur histoire, leur travail, leur œuvre, leur tout ce que tu veux, hein, leur parcours, leur combat, s'ils avaient été seuls. Donc ils n'étaient pas si seuls que cela. Donc ils avaient forcément des gens qui les entouraient, les gens qui les suivaient, les gens qui prenaient des notes. Mais de temps en temps, ils y faisaient des retraites parce que justement, c'était des, ce que tu dis, des sages, des philosophes. Des... Ma petite Fazima, la philosophe, on arrive au terme de l'émission. On revient demain, Fatima.
On revient. C'est la solitude positive. Ah, continue. Pour se retrouver.
Fatima, avec c'est fini ce soir. Reviens demain parce que c'est un sujet vraiment qui demande deux, au moins deux émissions. Demain, on va essayer de parler de comment sortir de cette solitude subie, hein, je dis bien. Voilà. Désolée pour Hamid de Saint-Etienne et les autres. Revenez demain. À demain, Giovanni. Bonne nuit.
À demain, Vanessa. Bonne nuit.
Eh ben voilà. Belle et douce nuit à vous, chers amis. Faites de beaux rêves. Voilà. Continuez à écouter les programmes de Beurre FM. Là, tout de suite, AVS avec Philippe Robichon et ses invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 22h pour Confidence. OK? Allez, à demain. Je vous aime. Bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.